Nous sommes le jeudi 15 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
La France à l'heure donc des économies d'énergie, chaque geste compte. Voilà le message du gouvernement. La Première Ministre prolonge le bouclier tarifaire, mais les prix vont tout de même augmenter l'an prochain de 15% pour les tarifs régulés du gaz et de l'électricité. Dans le même temps, RTE et GRDF conseillent aux Français de faire 15% d'économies d'énergie chez eux. C'est ça ou on ne passera pas l'hiver. Explication dès le début de ce journal. Et puis nous irons dans ce journal également en Gironde où plus de 1000 pompiers luttent toujours contre les flammes à Somos près de Lacanau. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y aura peut-être de la dinde à Noël, mais on n'est pas sûr de pouvoir la mettre au four. On verra dans quelques instants les mesures que compte prendre l'exécutif pour amortir l'envol des prix de l'énergie. Mais hier, Elisabeth Borne a appelé les Français à la modération. Même avertissement ou recommandation du côté de GRDF et RTE, les gestionnaires du réseau gaz et électricité. Baptiste Morin, particuliers et entreprises, tout le monde va devoir faire des efforts pour éviter les coupures.
Oui, RTE, le responsable du transport de l'électricité, le dit. Le risque de coupure sera maîtrisé à condition que les Français consomment moins. Objectif, moins 5%, voire même en cas d'hiver très froid, moins 15%. Et un outil déployé par RTE, le dispositif EcoWatt, un site internet qui alertera avec 3 jours d'avance les fournisseurs d'énergie, les entreprises et les ménages en cas de risque réel de coupure. Coupure qui pourrait intervenir surtout le matin, entre 8h et 13h, et le soir, entre 18h et 20h, des créneaux particulièrement sensibles. Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation chez RTE, détaille les 3 gestes clés à appliquer en cas d'alerte.
Le premier, ce serait de réduire son chauffage. Le deuxième, c'est j'éteins les pièces qui sont inoccupées. Et le troisième geste, c'est si je peux éviter d'utiliser mon four le soir à 18h ou 20h, je le fais. En faisant ça, je vais réduire ma consommation d'électricité, mais je vais aussi aider le système électrique.
Sobriété prônée aussi par le gestionnaire du réseau de gaz GRT. Et dès maintenant, car le gaz se stocke, ce qui est économisé dès aujourd'hui pourra servir en plein hiver. GRT qui préconise une utilisation prudente des réserves. Elles sont aujourd'hui remplies à 94%. C'est une bonne chose, mais attention à ne pas piocher dedans trop tôt. L'hiver peut être long.
Baptiste Morin, EDF de son côté, maintient sa promesse de rouvrir ses centrales actuellement à l'arrêt pour maintenance dans les semaines ou les mois qui viennent. Cela concerne 26 réacteurs.
Le gouvernement maintient par ailleurs le bouclier tarifaire, mais cela n'empêchera pas la facture des Français de grimper sensiblement.
À plus 15% sur les tarifs régulés du gaz et de l'électricité dès l'année prochaine, soit une augmentation moyenne d'une 20aine d'euros dans les deux cas. Un chèque énergie sera versé à la fin de l'année aux Français les plus modestes de 100 à 200 euros en fonction des revenus. 12 millions de ménages sont concernés. Puis je rappelle que ce jeudi marque aussi le versement de la prime inflation de 100 euros.
Voilà, plus 50 euros par enfant également. Vendredi noir en préparation. Demain dans les aéroports français, la moitié des avions vont rester cloués au sol.
Un mouvement qui va toucher les vols intérieurs et moyens courriers, conséquence d'une grève du contrôle aérien. Les contrôleurs réclament des augmentations de salaire et des embauches. Syndicats et direction ne parviennent pas à se mettre d'accord. La grève de demain peut être considérée comme un premier avertissement. Aurélien Fleureau.
Plusieurs centaines de vols supprimés. Air France n'assurera par exemple que 45% de ses courts et moyens courriers. Le mouvement est massif et les contrôleurs aériens ont 2 revendications majeures. La première, que l'inflation soit compensée. L'augmentation du point d'indice de 3,5% pour les agents de la fonction publique n'aura fait augmenter leur salaire que de 1,4% selon le SNCTA, syndicat national des contrôleurs aériens. Et puis autre inquiétude, pour leur secrétaire national Loïc Parisi, l'absence de perspectives de recrutement pour ce métier qui demande jusqu'à 6 ans de formation.
Il y a 1200 départs à la retraite de contrôleurs aériens en 6 ans. 1200 départs à la retraite en 6 ans, ça représente un tiers de l'ensemble des contrôleurs aériens. Pour schématiser, c'est comme si tous les ans, à partir de 2029, vous aviez l'ensemble de la tour de contrôle de CDG qui fermait pour manque de contrôleurs aériens. Et ça, tous les ans, pendant 6 ans.
Si rien n'est obtenu d'ici demain, le prochain préavis de grève est déjà prêt. Il concerne les 28, 29 et 30 septembre.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Direction la Gironde. Les pompiers continuent de lutter contre l'incendie qui ravage Somos et ses environs.
Le feu n'a pas progressé durant la nuit. Il est encore trop tôt pour dire s'il est définitivement fixé, mais les autorités ont bon espoir d'en venir à bout. 3700 hectares ont été détruits. Les évacuations préventives se sont multipliées, comme à Sainte-Hélène, commune proche de Somos. Le village s'est vidé de la moitié de ses habitants, des habitants partagés entre lassitude et colère face à la répétition des incendies. Reportage Benjamin Péter.
Le village est presque désert. Des panneaux d'affichage invitent à ne pas circuler pour faciliter le passage des pompiers. La moitié de la commune a déjà quitté les lieux. Mais Aude, qui héberge ses parents Eric et Antonia, déjà évacués de leur logement la veille, a choisi de rester.
On doit évacuer aussi, mais on est resté là pour l'instant. Les enfants, on les
des amis à l'abri chez papy et mamie dans une autre commune et nous, on est là. Parfois, oui, ça prend la gorge, le nez, envie de vomir, c'est difficile, mais par vague.
Et si la situation semble se stabiliser, l'inquiétude et la colère grandissent.
Notre lotissement, il est à peu près à 1 km du feu, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un grand coup de vent, quoi. C'est très angoissant. Ça, ouais. Ça fait beaucoup, à force, ces gros incendies, tout l'été, ça a été ça, quoi.
On a entendu que c'était criminel, donc oui, il y a de la colère. Je vois pas à quel moment c'est jouissif de voir la forêt cramée, quoi.
Et surtout de mettre tous ces gens dans la détresse, quoi. C'est incompréhensible.
Pour le maire Lionel Montillo, qui a toujours vécu ici, voir la forêt partir en fumée, c'est un crève-cœur.
Puis on voit son massif, on voit sa forêt fondre. C'est désolant. Quand on est comme moi, un enfant de Sainte-Hélène, quand on voit notre forêt être détruite comme ça, on est triste et en colère. Oui. Une récurrence des événements qui usent.
Et beaucoup qui avaient l'habitude de se promener dans ces bois, qui cueillaient des cèpes souvent, redoutent maintenant d'y retourner et d'y découvrir un paysage carbonisé. À Sainte-Hélène, Benjamin Péter, Europe 1.
Il est 7h06 sur Europe 1. Nous partons maintenant aux États-Unis, à Détroit, où les industriels sont priés d'accélérer leur passage au tout électrique. C'est le salon automobile le plus grand du monde qui vient de s'ouvrir.
Oui, Joe Biden en personne est venu prêcher la bonne parole. Le président américain était l'invité de marque du salon qui a ouvert ses portes hier. Alexis Guilleux, l'avenir appartient plus que jamais à la voiture électrique et il est temps de s'y mettre.
Oui, Joe Biden est un car guy, un homme de voiture, comme il aime souvent se surnommer. Et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il est le premier défenseur du passage à la voiture électrique. Hier, il a annoncé le déblocage de 900 millions de dollars pour commencer à bâtir le grand réseau national de bornes de recharge électrique. Ce premier volet couvrira un tiers des autoroutes du pays dans 35 États.
Le grand road trip américain sera totalement électrifié. Les bornes de recharge seront aussi faciles à trouver que les stations essence le sont aujourd'hui. Nous allons aussi investir 7 milliards de dollars pour que les entreprises automobiles américaines aient les batteries et tout le matériel essentiel dont elles ont besoin.
Alors à terme, l'objectif c'est d'installer 500 000 bornes de recharge à travers le pays. À cela s'ajoute une incitation récemment votée par les démocrates, 7 500 dollars de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule électrique fabriqué en Amérique. Car pour Joe Biden, il s'agit avant tout d'une opportunité stratégique et industrielle, transformer le parc automobile américain tout en créant des emplois aux États-Unis. Et à 2 mois des élections de mi-mandat, le président ne se prive pas pour faire le service après-vente de ses réformes.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Enfin le football, deuxième journée de la Ligue des Champions, ça passe pour le Paris Saint-Germain.
Et victoire 3-1 du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa grâce à ses stars Messi, Mbappé et Neymar. Des Parisiens pas tout à fait dans leur assiette, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est sans doute cette ambiance assourdissante qui a déstabilisé les Parisiens. 30 000 fans en vert et blanc, debout, chantant de toute leur force. En début de match, les joueurs du PSG font des erreurs inhabituelles. Paris est logiquement puni, mené au score. Le PSG s'en remet alors à son trio magique, confirme l'entraîneur Christophe Galtier.
Les trois qui ont marqué, ils s'appellent Messi, Mbappé et Neymar. Et heureusement qu'on a ces trois attaquants-là. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Il peut y avoir de la frustration sur... pour Ney lors de la première période, comme il pouvait en avoir aussi pour Kylian, qui ont eu des situations franches et qui n'ont pas pu conclure.
Voilà, sans briller, le PSG se retrouve malgré tout en tête de son groupe de Ligue des Champions et toujours invaincu depuis le début de la saison. Les Parisiens ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la compétition Rennes et se déplaceront dimanche à Lyon pour la Ligue 1.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Dans un instant sur Europe 1, la France va-t-elle devoir faire revenir ses ressortissants et leurs familles partis faire le djihad en Syrie? On en parle avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat FO Magistrat. A tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
La France va-t-elle devoir faire revenir et protéger tous ses ressortissants et leurs familles qui sont partis faire le djihad en Syrie? La question se pose après l'arrêt rendu hier par la Cour européenne des droits de l'homme condamnant Paris. Bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat Force Ouvrière Magistrat, ancienne juge antiterroriste. Vous connaissez bien ces questions-là. Alors, je rappelle que la CEDH était saisie par deux familles françaises qui demandaient en vain depuis des mois aux autorités françaises de rapatrier leurs filles, compagnes de djihadistes et elles-mêmes djihadistes, ainsi que leurs petits-enfants qui sont nés là-bas. Pour commencer, que dit précisément l'arrêt de la CEDH? On dit Paris condamné, mais condamné à quoi?
Oui, merci de votre invitation parce que c'est un arrêt extrêmement intéressant, extrêmement important, qui remet en lumière plusieurs obligations des États par rapport à leurs ressortissants, par rapport à leurs nationaux, d'où l'intérêt d'ailleurs, je le dis tout de suite, d'avoir ou pas une nationalité française ou d'en être déchu. Dans certains cas, rappelez-vous, ça avait été un sujet hautement inflammable sous François Hollande. Ceux qui commettent des actes de terrorisme ou qui sont des ennemis, des intérêts, doivent-ils ou non garder leur nationalité française? Parce qu'on voit très bien que le fait d'être français, Vous voyez, par exemple, pour ces enfants qui sont nés dans ces camps, qui sont juste français par le droit du sang, est attaché des droits particuliers.
Ça oblige les États.
Exactement.
Quelles étaient les actions de ces nationaux?
Tout à fait. Et donc là, dans cet arrêt, ce qui était intéressant, c'est qu'on a soulevé plein de questions juridiques.
Ouais.
Et parmi les questions juridiques, c'était celle, par exemple, du droit pour un État de rapatrier ses nationaux, d'autant plus quand ils sont, comme c'est le cas ici, dans des situations sont des situations extrêmement compliquées sur le plan humanitaire.
Ouais, je rappelle le parcours moyen de ces gens-là. Ils sont partis, ils ont déchiré leur passeport, l'ont
parfois
souvent brûlé,
puis
sont entrés en guerre contre la France, sont aujourd'hui prisonniers dans des camps tenus par des Kurdes au nord de la Syrie, et dans une situation effectivement dramatique sur le plan, plan humanitaire.
Il pose une deuxième question aussi qui était intéressante, et je vous dirai après ce que la Cour a dit justement par rapport à ces questions. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne comme droit pour quelqu'un qui, en effet, n'est pas spécialement attaché à la France, mais à une nationalité française, quand il part comme ça sur des théâtres militaires contre la France? Qu'est-ce que ça leur donne comme droit? Et là, en termes d'opinion publique, il y a un vrai enjeu, parce que c'est extrêmement choquant.
Oui.
Et d'un autre côté, ce qui est choquant, et c'est ce que l'on voit très bien dans cet arrêt, parce que maintenant c'est très documenté grâce aux ONG, c'est la situation quasi cataclysmique de ces camps où ces enfants meurent, où ils sont maltraités, où il y a de la violence, il y a de la radicalisation.
Je vais lire un petit bout de l'arrêt qui nous dit, Béatrice Brugère, que ces djihadistes et leurs enfants n'ont pas de droit général au rapatriement, mais que les circonstances, notamment de leur emprisonnement en Syrie, ça force la France, d'une certaine manière, à examiner la demande de leur famille.
Tout à fait. Donc en fait, ce que dit cet arrêt par rapport à cette situation, c'est que, un, le fait d'avoir une nationalité ne crée pas un lien juridictionnel extraterritorial pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, le ministère des Affaires étrangères a dit, c'est notre choix, j'allais dire, c'est notre volonté, ce qu'on appelle des actes de gouvernement. Et donc, les requérants ne peuvent pas faire de procédure devant les instances nationales. Il n'y a pas pour eux de possibilité. Alors, qu'est-ce qui leur reste, justement? La Cour européenne des droits de l'homme. Et ils sont allés sur l'article 3, et c'est là-dessus que la France est condamnée, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme dit, d'accord, il n'y a pas d'obligation, et c'est très important de le rappeler, de rapatriement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, certes, est condamnée, mais elle n'a pas d'obligation, pour autant, de les rapatrier.
Ouais.
Ce qu'elle dit, par contre, c'est que...
On ne peut pas ignorer quand il y a une demande, il faut instruire quelque chose.
En fait, ce qu'elle dit plus exactement, elle dit, voilà, il y a l'article 3 de la Convention qui dit qu'on a un droit, quand on est français, de pouvoir rentrer dans son territoire.
Mmh.
On ne peut pas les empêcher de revenir. Mais alors, on va vous dire, oui, d'accord, mais comment ils reviennent? Ils sont emprisonnés. Donc, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la France, elle doit avoir un processus qui n'est pas arbitraire et qui doit être transparent et effectif avec des recours.
Ça, c'est le droit.
Et c'est là-dessus qu'elle est condamnée.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'elle est condamnée parce que...
Donc, il n'y a pas de... Non, mais ce qu'on
comprend... estime que la France, en fait, n'est pas transparente sur le fait quand elle ramène certains et pas d'autres.
Mais la France n'est pas objectivement obligée de rapatrier ces gens-là. C'est-à-dire, c'est ça aussi, parce que l'homme de la rue...
Il n'y a pas de droit au rapatriement, c'est exactement ça. Mais par contre...
L'homme de la rue se dit quand même, la CEDH défend moins la France que ses ennemis quand même.
Non, en fait, ce que la CEDH... en fait, sur lequel, et c'est assez étonnant, la CEDH appuie fort, c'est sur le fait qu'on ne peut pas être dans l'arbitraire, dans une décision.
Mmh.
C'est-à-dire qu'elle ne remet pas en question le fond de la position de la France, en disant non, il n'y a pas de droit au rapatriement. Pour autant, puisque la France l'a déjà fait, et vous allez peut-être me le dire, elle l'a fait encore récemment au mois de juillet, en rapatriant des femmes et des enfants.
Effectivement.
Quand elle le fait, il faut que ça soit non pas arbitraire, dans un processus transparent, avec une motivation individuelle et pas générale, qui permet à ce moment-là, aux requérants, d'avoir un recours effectif.
Oui, on est sur un sujet qui est politiquement évidemment hypersensible. Alors, bon, de ce que je comprends que vous nous dites, c'est que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne suppose pas que maintenant il y ait des retours systématiques.
Pas du tout.
Des djihadistes, dès lors que leur famille le demanderait aux autorités françaises.
Non, il n'y a pas ce droit-là. Et c'est important que vous insistiez sur cette question, parce que c'est un sujet hautement inflammable dans un contexte aujourd'hui où l'opinion publique a du mal à comprendre, et on les comprend, je vais dire, ce qui se passe, parce que à la fois on voit de temps en temps des rapatriements, et à la fois il y a une doctrine de l'État, du gouvernement, qui dit non, attention, nous on protège nos citoyens d'une menace terroriste dont on sait qu'en France elle est extrêmement importante, et je rajoute là-dessus, on est sur un contexte international très particulier. Pourquoi? Parce que les milices djihadistes sont en train de se reformer. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie n'est pas anodin. L'État islamique, certes, a été déchu, mais pour autant, il n'est pas mort.
sur un plan sécuritaire, finalement, vaudrait peut-être mieux que ces gens-là, on les ait sous la main plutôt que de les laisser là-bas et qu'ils s'évanouissent dans la nature en cas d'attaque d'une prison comme on l'a vu récemment.
Alors, votre question, elle est très intéressante parce que sur le papier, on pourrait dire oui. En réalité, tout dépend de la manière et de la capacité que la France a à prendre en charge le retour de ces mères, qui ne sont pas que des mères, elles sont aussi, pour certaines, des alliés objectifs du djihadisme. Et pour ces enfants, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, ils sont très petits, mais dans un état très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui aurait été intéressant par rapport à cette décision aujourd'hui, c'est d'avoir un retour, c'est-à-dire sur ce qui s'est déjà fait, sur la prise en charge qui a été déjà faite, de ceux qui sont déjà rentrés. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Et ça ?
Est-ce qu'ils sont dangereux ? Est-ce qu'on a été en capacité de les prendre ? Et la deuxième question, évidemment, c'est la situation de nos prisons. Parce que vous avez raison, pour les majeurs qui vont être sur des procédures, ça va être compliqué aujourd'hui de les gérer dans des prisons qui sont déjà, vous le savez, dans un état difficile et eux sont parfois extrêmement radicalisés.
Merci beaucoup Béatrice Brugère d'être venue nous éclairer sur cette décision, cet arrêt de la CEDH. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat FO Magistrats. On aura l'occasion de prolonger la discussion sur ce sujet tout à l'heure à 8h40 avec David Revaud-Dallon, Journal du Dimanche, et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour cher Dimitri.
Alors, on parlait d'énergie dans le journal de 7h, c'est évidemment à la une de l'actualité. Ce bouclier tarifaire 2023, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est un exercice d'équilibriste. Hein. Il faut tout à la fois limiter la hausse des prix de l'énergie, c'est le but, hein. Mais en même temps, il faut augmenter un petit peu les prix pour inciter les gens à consommer moins et à économiser l'énergie. Et en même temps, il faut faire en sorte que tous ces dispositifs soient soutenables financièrement par l'État. Écoutez, vous me posez la question, Dimitri, moi je trouve que l'exercice est plutôt réussi. Donc la hausse des prix du gaz et de l'électricité sera limitée à 15% en 2023. C'est moins protecteur qu'en 2022, hein, où le gaz était gelé, où l'électricité a augmenté de 4%. Bon, ça coûtera quand même 16 milliards d'euros au pouvoir public. Mmh. Les 12 millions de foyers les plus modestes toucheront un chèque énergie, hein, compris entre 100 et 200 euros selon leurs revenus. Ça coûtera 1,6 milliard d'euros. Faut ajouter à cela les aides aux entreprises, hein, qui ont plutôt tendance à s'accroître. La leçon quand même à en tirer, c'est que, il faut le dire, la France reste un pays formidablement protecteur. On l'avait vu au moment du Covid. C'est au prix d'une dégradation de nos finances publiques, mais enfin, il faut que les Français le sachent, nous avons la chance d'être très protégés.
Oui, alors vous dites 16 milliards nets, hein, parce qu'en fait c'est, je crois, 45 milliards le coût de ce bouclier énergétique, et il y en a 30 qui seront pris en charge par diverses taxes et prélèvements sur les producteurs d'énergie. Ça, c'était pour le détail. Hein. Mais est-ce que d'ailleurs, budgétairement, tout ça, c'est soutenable sur le long terme, Nicolas ?
Si on bosse et si on est intelligent, c'est-à-dire si on génère de la croissance. Alors, pour l'instant, cette croissance en France, elle est encore là. D'ailleurs, nos performances économiques ne sont pas si mauvaises que ça. L'inflation est plus basse qu'ailleurs, c'est d'ailleurs grâce au bouclier tarifaire. Ça nous rend plus compétitifs en fait, hein, puisque nos prix augmentent moins que ceux de nos concurrents. Et l'activité, oui, elle reste assez dynamique. La croissance sera d'un peu plus de 2,5% cette année, 1% l'année prochaine. L'emploi a atteint fin juin un niveau très élevé. Bon, la France s'en sort pas si mal. On s'en sort, par exemple, mieux que l'Allemagne où la crise énergétique est beaucoup plus grave que chez nous.
Ah ouais, ils en sont à parler de désindustrialisation en Allemagne à cause de cette
crise. Allemagne.
Ah ouais. Mais alors chez nous, justement, est-ce qu'on risque pas une récession à cause de ces prix de l'énergie ?
Si, une baisse de l'activité hein, pendant quelques mois cet hiver, s'il y a des rationnements. Bon. Mais en même temps, vous voyez, Dimitri, sur le moyen terme, notre économie, elle est quand même devenue très résiliente. C'est grâce aux entreprises qui arrivent à résoudre tous les problèmes. Moi, je le vois bien, elles traitent leurs difficultés d'approvisionnement, par exemple, qui ont été très importantes avec la pandémie et avec la guerre en Ukraine. Elles traitent ces problèmes d'approvisionnement avec beaucoup d'efficacité. Elles sont devenues très flexibles, très, très réactives. Il y a un chemin un peu étroit en France hein, pour que notre pays conserve un niveau d'activité, d'emploi, de pouvoir d'achat correct ces prochains mois. Bon, ce chemin, il est étroit, mais il existe et j'ai l'impression qu'on a commencé à l'emprunter.
Vous nous dites ce matin sur Europe 1, je retiendrai ça Nicolas Bouzou, que nos entreprises, elles arrivent à résoudre tous les problèmes. Incroyable. Merci beaucoup Nicolas, 7h23.
C'était l'édito éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Que retenir de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
Elisabeth Borne a présenté dans les grandes lignes le bouclier tarifaire 2023 pour l'énergie. La hausse des tarifs réglementés sera plafonnée à 15% et le nombre de bénéficiaires du chèque énergie passera de 6 à 12 millions de ménages. Emmanuel Macron indique avoir téléphoné au roi Charles III pour présenter les condoléances de la France. Il précise qu'il sera présent lundi pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Et puis dans la guerre fratricide des Pogba sur l'affaire des tentatives d'extorsion, le frère du champion du monde de foot, Mathias, ainsi que 4 autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
Cet adversaire,
allô, Jacques Paul,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
On parle beaucoup de centrales nucléaires en ce moment, les problèmes de production en France, le risque d'accident nucléaire en Ukraine, à Zaporijjia aussi, la plus grande centrale d'Europe. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et quand on parle d'accident nucléaire, on pense à Tchernobyl, bien sûr, moins connu, Three Mile Island. C'est en 1979 et c'est le pire incident nucléaire de l'histoire aux États-Unis.
Oui, cette centrale a été construite sur une île au milieu du fleuve et un an seulement après sa mise en service, un des réacteurs subit un problème de refroidissement. De la matière radioactive est relâchée dans l'environnement en petite quantité.
C'est là que se trouve emprisonné sous une chape de béton le champignon de gaz radioactif dont l'explosion pourrait intervenir d'ici 2 ou 3 jours. Si la surchauffe du réacteur n'est pas rapidement maîtrisée.
Le journaliste Édouard de Blaye qu'on entend ici est sur place pour Europe 1. Alors l'incident ne fait pas de victimes, mais 140 000 personnes doivent être évacuées. Les premières annonces sont faites à la population.
L'ordre d'évacuation lancé tout à l'heure aux femmes enceintes et aux bébés habitant à proximité immédiate de la zone contaminée a brusquement ravivé en effet les inquiétudes de toute la région.
L'accident nucléaire est classé au niveau 5 dans l'échelle des événements nucléaires. C'est élevé. Les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima ont par exemple atteint le niveau maximum de 7.
Alors les défaillances ont été aggravées aussi parce que les ingénieurs de la centrale de Three Mile Island ne réalisent pas tout de suite qu'il s'agit d'un accident, qu'il y a une perte de liquide de refroidissement. Il y a de la radioactivité dans l'environnement.
Oui, le taux de radioactivité est stable jour après jour et heureusement il reste assez faible, mais cela renforce la crédibilité des groupes anti-nucléaires. Le président américain Carter se rend sur place et en France, le Premier ministre Raymond Barre s'empresse de dédramatiser.
Le scénario qui s'est produit aux États-Unis ne pourrait pas se présenter de la même façon en France. Nous avons en effet des systèmes de sécurité qui prennent en compte la possibilité de tels accidents techniques.
Mais à Fessenheim, dans l'est de la France, où une centrale vient d'être construite, certains habitants s'inquiètent.
On n'est pas au courant de ce qu'il pourrait y avoir ici. Hein. Puis on ne sait pas quoi faire en cas d'accident, on ne saurait pas où aller ni rien. Hein. On n'est informé de rien du tout ici.
Et lorsqu'on a construit la centrale, vous êtes inquiété déjà?
Non, parce qu'on n'était pas au courant. Hein. On n'a jamais entendu parler de ça. Pratiquement, puis c'est seulement maintenant qu'on entend les petits accidents. Ouf.
Aux États-Unis, en tout cas, cet événement a conduit le pays à abandonner la construction de nouvelles centrales.
Programme nucléaire civil américain qui a repris depuis une dizaine d'années. J'ajoute que 12 jours avant l'accident de Three Mile Island, sortait au cinéma le film Le syndrome chinois, qui décrivait comment le combustible en fusion pourrait traverser la croûte terrestre si le réacteur nucléaire venait à s'emballer, décidément. Merci Laure d'Autriche. Allez, dans quelques minutes, le journal de 7h30. Comment on va faire pour faire 15% d'économie d'énergie? On va voir ça. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Tiens, ça faisait longtemps, le Covid qui se réveille doucement depuis la rentrée. 40 000 nouveaux cas par jour, un chiffre qui a doublé en une semaine. Assez pour dessiner les contours d'une 8e vague, sauf si l'on arrive à limiter la progression du virus.
Et c'est ce que permettrait le nouveau vaccin élaboré par l'INRAE. L'Institut de recherche vient de mettre au point un spray nasal.
Oui, une trouvaille qui agit directement sur la transmission du virus et pas seulement sur les cas graves. Et c'est ça qui change tout. Alors pourquoi un pchit dans le nez plutôt qu'une piqûre dans le bras? Les explications de Yasmina Katou.
Imaginez un portail protecteur au fond du nez qui est la porte d'entrée principale des virus. Dès l'arrivée du Covid dans les fosses nasales, ce portail se referme pour empêcher le virus de nous infecter. C'est grâce à une protéine que tout le système de transmission est bloqué, explique Nicolas Meunier, l'un des responsables de l'étude à l'INRAE.
Un des moyens, c'est d'utiliser des protéines alpha-rep. Ça va faire que le virus, quand il va arriver dans le nez, il ne va pas pouvoir se fixer aux cellules qu'il infecte normalement dans le nez. Et ça va bloquer le passage vers les poumons ensuite. bloquer aussi la dissémination des particules virales.
Si le projet venait à être commercialisé, il prendrait la forme de gouttes ou de sprays dans le nez. Autre avantage, cette technologie pourrait s'adapter à n'importe quel virus.
S'il y a une autre forme de pandémie ou autre, on s'y prendra cette fois plus en avance. Cette technologie-là, elle pourrait être mise au service, puisque les protéines qu'on a produites, elles peuvent avoir des formes très différentes contre un autre virus.
Avant d'espérer pouvoir retrouver cette technologie dans les pharmacies, des essais cliniques doivent maintenant être menés sur l'homme.
Yasmina Katou, face au Covid, chaque geste compte. Le slogan de la pandémie qui va être recyclé aussi pour la crise de l'énergie.
Et oui, le gouvernement lance une campagne de communication pour inciter les Français à faire des économies sur leurs factures.
Et notamment réduire sa consommation d'électricité de 15%. C'est l'effort qui pourrait être demandé. Tout dépendra des températures cet hiver, dit le gestionnaire du réseau. RTE plongé, je cite, dans un contexte d'incertitude inédit. Alors 15% d'accord, mais chez nous, à la maison, comment atteindre cet objectif? Les conseils de Barthélémy Philippe.
Le levier le plus efficace, c'est de baisser le chauffage qui représente en moyenne les deux tiers de la consommation des foyers français. C'est ce que nous explique Sylvain Le Faller, cofondateur de la start-up HelloWatt, qui aide les particuliers à réduire leurs factures.
Ce serait plutôt réduire de 2 degrés la température de chauffage de son logement ou de faire une réduction d'un degré, mais en parallèle en décalant ces différents programmes, machines et autres.
Il n'y a pas que le chauffage, on peut aussi passer quelques minutes de moins sous la douche ou baisser la température du chauffe-eau. Quand vous allez vous coucher, éteignez votre box internet plutôt que de la laisser en veille. Côté cuisine, couvrez vos casseroles, dégivrez régulièrement votre congélateur et privilégiez les programmes éco des machines à laver. Pour vous motiver, n'oubliez pas que ces éco-gestes vont aussi alléger la facture. C'est important, d'autant que la Première ministre vient d'annoncer une augmentation de 15% des prix de l'énergie au 1er février 2023.
Barthélémy Philippe.
Il est 7h34 sur Europe 1. Les condoléances d'Emmanuel Macron au roi Charles III. Le président de la République a appelé le nouveau souverain hier soir.
Et sur Twitter, le chef de l'État a aussi salué le lien indéfectible entre la France et le Royaume-Uni. Et pour prouver son amour, rien de tel qu'un beau cadeau, comme, souvenez-vous, ce pur sang qu'Emmanuel Macron avait offert à la reine pour ses 70 ans de règne au printemps. Car oui, la passion d'Elisabeth II, ce sont les chevaux et pas seulement les corgis. Notre reporter Nina Droff nous emmène dans la ville de Newmarket, berceau des courses hippiques au Royaume-Uni, où la souveraine avait ses habitudes.
Brin d'herbe par brin d'herbe, les jardiniers de l'hippodrome taillent et arrosent les 2 km de pistes verdoyantes. Sophie Abel, la directrice, elle, supervise le décrassage des immenses gradins, un peu nostalgique lorsqu'arrive le moment de nettoyer les sièges en plastique bleu du carré royal.
La reine s'asseyait là, juste à côté de la ligne d'arrivée, le meilleur endroit pour regarder la course. Hein. On peut entendre le tonnerre des sabots de chevaux qui arrivent. Elle adorait les voir sur la piste. Elle criait, s'agitait. C'était incroyable à voir.
Au cours de son règne, la reine Elisabeth a passé de nombreuses après-midi installée sur ce siège à encourager ses chevaux. Elle avait même inauguré les nouveaux gradins de l'hippodrome lors de sa dernière venue. Pour Sophie, son décès est une terrible perte pour le centre hippique.
Elle restera toujours très importante pour nous ici. C'était la plus grande ambassadrice de notre sport. Personne n'était aussi passionné par les courses hippiques qu'elle.
Au-delà des courses, la souveraine s'occupait également elle-même de l'élevage de ses chevaux. Joy, une des éleveuses, l'a parfois croisée dans les écuries.
Elle était très respectée en tant qu'éleveuse de pur sang. Elle va nous manquer. Je n'arrive pas à croire qu'elle est partie.
Un hommage officiel sera rendu à la reine samedi prochain, avant le départ de la course. À Newmarket, dans le Suffolk, Nina Droff, Europe 1.
Voilà, et dans le journal de 8h, nous serons avec notre journaliste européen Stéphane Place en direct de Londres. Londres où, lundi, jour des funérailles, le trafic aérien sera limité pour assurer le silence et la sérénité dans la capitale pendant ces heures de recueillement.
Et en France aussi, le trafic aérien sera perturbé demain, mais cette fois, rien à voir avec la reine. Les contrôleurs aériens sont en grève pour réclamer recrutement et hausse de salaire. Un vol sur deux annulé pour les courts et moyens courriers.
7h36, un miracle à la française, c'est le titre à la une du journal L'Équipe. C'est un bon résumé du parcours des Bleus à l'Euro de basket.
Oui, on peut le dire, il y avait déjà eu cette victoire arrachée à la Turquie en 8e de finale. Eh bien, les Français ont récidivé hier soir face à l'Italie, éliminée sur le fil, le bout du fil même. La France a décroché sa place pour le dernier carré. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour.
Dimitri, on peut le dire, c'était un match complètement fou.
Oui, rendez-vous compte, à 2 minutes de la fin du match, le tableau des scores affichait 7 points d'avance pour les Italiens. Mais rien ne semble arrêter nos miraculés, puisque dans les dernières secondes, Thomas Hurtel, meneur de jeu de l'équipe de France, égalise et arrache les prolongations dans laquelle les Bleus viendront à bout des Italiens 93-85. Un scénario dingue qui se répète, comme nous l'explique Rudy Gobert, joueur phare de cette équipe.
C'est une grosse victoire, ça vient du cœur. Ça vient du cœur et on s'est encore mis dans une position assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui abandonneraient dans ces situations. Nous, c'est l'inverse. On se sublime dans ces situations-là et on a su élever notre niveau quand il fallait et aller chercher cette victoire.
Rudy Gobert, novice champion olympique, se qualifie donc dans le dernier carré de la compétition où ils affronteront la Pologne demain à 17h15 avec pour objectif décrocher un ticket pour la finale.
Oui, un match où il faudra avoir le cœur bien accroché, ça c'est certain. Merci Dimitri Vernet.
Ouais, Georges Eddy sur Canal+, il était en feu hier soir à la fin du match. En termes de frayeur d'ailleurs, c'était pas mal aussi du côté du Paris Saint-Germain.
Oui, avec une victoire dans la souffrance hier soir face au Maccabi Haïfa. 3-1 grâce au trio Mbappé, Neymar, Messi qui a réussi à renverser la tendance. Et puis justement, un autre trio qui fait des merveilles.
Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le soufre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai
me planquer. Est-ce que vous avez reconnu cette voix?
Non, éclairez-moi, éclairez ma lanterne.
C'est celle de Gaël Faye qui chante. On l'entend dans la suite de l'extrait avec Grand Corps Malade et Ben Mazuet. Tailler la route, le titre sort aujourd'hui.
L'album sort demain, ça s'appelle Effet. Stéphanie Loire nous en parlera lors de la page culture demain matin dans la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup Romain Oquet, c'était votre journal à suivre. L'édito international de Vincent Hervouette, péril sur l'Arménie. La Russie n'a plus le temps ni les moyens de contenir le voisin azerbaïdjanais. Vincent va nous raconter.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Voilà ce qui fait dire qu'après les pénuries de gaz et d'électricité, pénurie de cire, vu le gabarit du bonhomme, ce qui va devoir faire fondre le musée Grévin. Merci beaucoup Alban. Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour, Nicolas Caro pour le livre du jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri, c'est quoi votre histoire avec Dwayne Johnson?
J'adore ce mec.
Ah d'accord, c'est tout.
Je trouve que, je sais pas, il est charismatique, il me plaît bien.
Magnifique.
Voilà, espèce de Arnold Schwarzenegger du 21e siècle. Très Family Guy en plus, vous voyez. Enfin, bon, je sais pas, j'aime bien le bonhomme.
Okay.
Voilà. Et Marie Jiquel qui est avec nous pour l'expo de la semaine. Bonjour Marie.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, on va parler de Frida Kahlo et c'est pour ça que vous êtes habillée comme Frida Kahlo.
Tout à fait, je lui rends hommage ce matin.
Ce matin, la grande peintre mexicaine. D'abord, bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri.
Vous aimez Frida Kahlo, Vincent?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, ça ne m'étonne pas.
Et vous Johnson. Allez l'aimer, vous allez l'aimer, Vincent.
Je connais un peu.
Voilà. Alors là, c'est les robes, c'est pas la peinture. Avec vous, l'édito international sur Europe 1, la guerre se rallume ces dernières heures entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On recense déjà 150 morts en quelques heures environ. Vous dites qu'ils sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine.
Oui, les Arméniens ont des amis, mais quand on est en guerre, on a besoin d'alliés et ils n'en ont aucun. Officiellement, si, il y a la Russie, qui est leur partenaire au sein de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, mais en réalité, elle a d'autres chats fouettés en Ukraine et elle ne peut pas se brouiller avec l'Azerbaïdjan, car c'est par là que transite une bonne partie des importations qui contourne l'embargo. Bref, Moscou surveille ce qui se passe dans son arrière-cour comme on regarde une araignée dévorer une mouche. Emmanuel Macron, lui, se veut l'ami des Arméniens. Et pour cause, ils sont à peu près 500 000 en France. Il a donc appelé le président Ilham Aliyev, fils du président Heydar Aliyev. La famille règne sur l'Azerbaïdjan depuis plus de 50 ans. Il l'a appelé à respecter le cessez-le-feu. Mais il n'est pas question que la France envoie aux Arméniens des canons César, ni même un Opinel pour se défendre. S'ils continuent à saigner, ils auront peut-être quelques cartons de pansement. L'Arménie n'est pas l'Ukraine, même si elle subit, elle aussi, un voisin envahissant.
Et le reste de l'Europe?
Ursula von der Leyen rentre de Bakou, où elle a acheté du gaz au prix fort et pour 20 ans. On n'insulte pas un fournisseur à la veille de l'hiver. Les voisins européens se disent préoccupés. En langage diplomatique, ça veut dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler. L'Allemagne exhorte à reprendre le dialogue à tout prix. Ponce Pilate renvoie les deux camps dos à dos. Et ça se comprend quand on sait que vivent 1 million de Turcs outre-Rhin et que la Turquie est passionnément aux côtés de l'Azerbaïdjan.
D'ailleurs, le président turc Erdogan dénonce les Arméniens, leur attitude agressive, leur provocation, leur violation du cessez-le-feu.
Oui, les agresseurs plaident toujours la légitime défense, on les a provoqués. Le président Erdogan sait bien que les Azéris sont 3 fois plus nombreux que les Arméniens, qu'ils dépensent 4 fois plus pour leur défense, que l'armée arménienne a été décimée par la guerre du Karabakh il y a 2 ans et ne s'en est pas remise. Les drones turcs ont taillé en pièces son artillerie. Les djihadistes que les Turcs ont acheminés de Syrie ont aussi taillé en pièces Grèce, les fantassins. Erdogan s'est tellement impliqué qu'il a participé au défilé de la victoire à Bakou. Ah oui. Le triomphe des Azéris, c'est le sien. La défaite des Arméniens, c'est sa joie. Et face à ces chrétiens d'Orient, le sultan est à la hauteur de ses prédécesseurs.
Mais que veut au final Vincent l'Azerbaïdjan ?
Profiter de l'occasion. Les Russes ne peuvent rien faire, l'Europe ne veut rien dire et Londres est le centre du monde jusqu'à lundi prochain. Ilham Aliyev veut finir le travail engagé il y a 2 ans. Il a gagné la guerre, mais certaines clauses du cessez-le-feu n'ont jamais été mises en œuvre. Malgré des rencontres multiples, la médiation de l'Europe, les Arméniens faisaient de la résistance passive. Ilham Aliyev impose donc par la force ce qu'il n'a pas obtenu avec les parlottes bruxelloises. Ce qu'il veut, c'est la capitulation des Arméniens. Avec la démilitarisation du Karabakh, il y a un bon nettoyage ethnique qui est à prévoir. Ce que prouve cette affaire, en tout cas, c'est que les relations entre États sont de plus en plus régies par le pur rapport de force. La guerre en Ukraine change le monde en pire.
Oui, ça ressemble au 19e siècle dans la gestion des rapports entre États. Merci Vincent Hervouet, 7h46.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Nicolas Carreau, le livre du jour. Ce matin, vous nous parlez du roman de Aude Walker. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. C'est un assez très beau livre, hein, d'ailleurs. Elle est américaine ?
C'est ce que j'ai pensé aussi. Et puis non, elle est française. Elle écrit en français. En tout cas, son père est américain, peut-être. Peu importe. C'est la couverture qui m'a fait choisir ce livre. Ah. Effectivement, regardez ce jaune, cet orange. On devine une forêt. C'est à la fois joli, énigmatique et mystérieux. Et puis le titre, Cavale au pluriel.
Il y a plusieurs fugitifs.
Ça commence en tout cas avec Camille aux États-Unis qui effectivement a l'air de fuir quelque chose, mais au départ c'est un peu flou parce qu'on lit seulement des mails qu'elle envoie, on ne sait pas à qui. Elle dit tu, elle donne des nouvelles, on comprend qu'elle est sur la route, elle s'arrête dans des hôtels et puis elle n'est pas seule, il y a un enfant avec elle, Shimon.
C'est son fils ?
Alors, au début on ne sait pas trop, c'est étrange. D'ailleurs, je peux vous le dire parce que le suspense n'est pas là, finalement non. D'ailleurs, ça l'agace parce que tout le monde pense qu'elle est avec son fils. C'est son ami, dit-elle. Ouais, c'est un enfant en bas âge quand même, et elle a 35 ans. Bizarre, bizarre. Encore plus mystérieux, Jack. C'est lui qui parle dans les chapitres qui le concernent. Il est installé dans un mobilhome, juché même, sur le versant d'un canyon, au milieu de nulle part, entouré de coyotes. Ça le terrifie d'ailleurs parce qu'il est somnambule et il a peur de sortir la nuit inconscient et de se faire dévorer par eux. C'est un ancien acteur de série B, mais sans boulot. Les scénaristes ont tué son personnage dans un accident de la route. Ouais. Maintenant, sa seule activité, c'est de s'asseoir à côté de son mobilhome de bon matin, de prendre une longue vue et d'espionner une femme, Ella, qui vit en contrebas dans une ferme, une sorte de ranch.
Mais alors c'est quoi ? C'est un voyeur, un agresseur ?
En fait, c'est sa femme à lui.
Ah oui.
Et c'est sa ferme aussi. Ils se sont séparés et il regarde surtout si elle s'occupe bien des animaux, parce qu'il y tient à ses bêtes. Il a l'air bien atteint, celui-là. Mmh. Camille aussi, remarquez, c'est celle qui écrit des mails. Elle écrit en fait à sa mère, on le comprend bientôt. Mais d'abord, sa mère est morte et ensuite, elle lui envoie les mails sur une vieille adresse électronique dont tout le monde a oublié les codes. Autant dire qu'elle n'est pas près de recevoir une réponse. Et pourtant, elle semble en chercher des réponses. Elle est perdue dans tous les sens du terme. Et cet enfant, mais qui est-il ?
J'imagine que ses destins vont finir par se croiser, non ?
Tout juste. Mais comment ? Pourquoi ? Il faudra lire pour savoir. En tout cas, quand on commence, on veut comprendre pourquoi tous ces gens fuient au sens propre et au sens figuré. Tout se dessine doucement, petit à petit, jusqu'à former un tableau psychologique étonnant.
Ça y est, j'ai encore envie de le lire. Mais arrêtez, j'en ai trop là sur la table de chevet.
Suspense.
C'est Cavale, donc avec un S, signé Aude Walker, c'est chez Fayard. D'ailleurs, le premier roman d'Aude Walker s'appelait Saloon. Elle aime l'Amérique.
Et un homme jetable, le deuxième, je crois.
Voilà. Et alors, dans sa bio qu'elle met elle-même sur Internet, je vous la lis. Hein. Elle découvre, en parlant d'elle-même, elle découvre trop tôt la littérature avec des écrivains autrichiens suicidaires de la fin du 19e siècle et écrit sa première nouvelle à 11 ans. Voilà.
On en est tous là.
Ah, du coup, elle a l'air caustique. 7h49, bon. Oula.
Ah bah oui, un peu de musique mexicaine, attendez.
J'allais le dire, ça sent le Mexique. Et pour cause, une exposition inédite ouvre aujourd'hui au Palais Galliera, musée de la mode à Paris, consacrée à la peintre mexicaine Frida Kahlo. Marie Gicquel, vous avez vu cette expo en avant-première pour Europe 1. Alors, il n'y a pas beaucoup de peinture. C'est la femme Frida Kahlo qui est en vedette. Hein.
Oui, et c'est un choc puisqu'on découvre le cœur poétique de Frida et son corps douloureux. Ses effets personnels sont donc exposés dans cette atmosphère confidentielle propre au Palais Galliera. On découvre des lettres à ses médecins, ses photos de famille, de mariage, ses bijoux, des bagues bagues cœur et flèches, son maquillage dont son rouge à lèvres vif et ses robes traditionnelles mexicaines qui ont tant attiré les médias occidentaux. Et puis, on découvre aussi ses prothèses et ses corsets qui rappellent que l'artiste subissait un corps fracassé, un corps
alité. Elle a eu un accident terrible à l'âge de 18 ans.
Tout à fait, avec un tramway. Un corps amputé à la fin de sa vie. L'âme de Frida flotte et cela donne des frissons aux visiteurs, mais aussi à la directrice du Palais Galliera, Myrène Arzayouz, qui a installé l'événement. Et on le sait, la marque Frida Kahlo cartonne à tous les coups dans le monde entier.
Ce sont des sujets tellement contemporains. Ça veut dire quand on parle des genres, des handicaps et modes, quand on parle d'identité culturelle mixte, d'une femme en souffrance, d'une femme qui a exprimé son intimité féminine aussi, d'une manière rare. Tout ça touche tellement des gens.
Alors, il y a des choses très rares. Il y a notamment une vidéo de Frida Kahlo et Diego Rivera, son mari. Il y a une prothèse de jambe peinte aussi. Toutes ces pépites ponctuent ce temple dédié à Frida Kahlo.
Oui, il y a aussi ce télégramme datant de 1939 envoyé par Frida à Diego. « Je t'adore », écrit-elle et signe « Friday » au lieu de « Frida ». Ou cette lettre du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts français qui stipule à Frida Kahlo l'achat d'un de ses tableaux pour 1000 francs, soit 440 euros.
Ouais, derrière cette profusion d'objets, de souvenirs, d'affaires très intimes de l'artiste, il y a une histoire.
Oui, mais c'est bien, avait été mis sous scellé par Diego Rivera, le mari de Frida, à la mort de Frida Kahlo. 50 ans plus tard, l'armoire a été réouverte, dévoilant cette collection émouvante en superbe état de conservation. Et la voici donc à Paris. Alors, seul regret de cette exposition déjà mythique, pas de son de la voix de Frida. Cet enregistrement n'existerait pas. Il y a toujours eu un mystère qui plane autour de sa voix. Mais sa présence, Dimitri, eh bien, elle est là.
Voilà, Frida Kahlo, au-delà des apparences, c'est au Palais Galliera, musée de la mode à Paris. Et alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Frida Kahlo, vous allez entrer dans la vie incroyable de cette, on dirait une femme puissante aujourd'hui.
Ah oui, tout
c'est jusqu'au 5 mars. Et d'ailleurs, elle se baladait avec un flacon Chanel numéro 5. Il n'y avait pas de parfum dedans, il y avait de l'alcool. Elle buvait un petit coup de temps en
pratique.
Temps. Merci. Merci Marie-Jiquel. Merci Nicolas Caro.
Merci beaucoup.
7h52.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Le plan de bataille pour passer l'hiver dévoilé. Elisabeth Borne a annoncé un plafonnement de la hausse des tarifs réglementés de l'énergie à 15% pour l'année prochaine. Le nombre de bénéficiaires du chèque énergie va aussi doubler en passant de 6 à 12 millions de ménages. Emmanuel Macron et le roi Charles III se sont parlé hier soir au téléphone. Le président a fait ses condoléances et confirmé sa présence aux obsèques d'Elisabeth II lundi à Londres. Et puis le PSG, premier de son groupe en Ligue des Champions après sa victoire hier soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Résultat, 3 buts à 1 grâce à la fameuse M&M, Messi, Neymar, Mbappé.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézé.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, l'électricité, le gaz, ça c'est le grand sujet d'inquiétude pour les Français qui se demandent combien tout ça va leur coûter. Hier, Elisabeth Borne a rendu public le montant de la douloureuse. L'an prochain, les factures vont augmenter de 15%. Alors ça y est, c'est la fin de l'insouciance, Alexis, après des années d'argent magique. On va enfin payer le coût de la crise.
Faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas l'opération vérité des prix. Alors bien sûr, nous allons tous devoir payer davantage, on nous l'a dit, hein, 25 euros par mois en moyenne pour les abonnés au gaz, 20 euros par mois pour ceux qui se chauffent à l'électricité. C'est pas rien, et évidemment on dira que c'est toujours trop, et notamment pour les ménages les plus modestes, c'est vrai, qui sont par ailleurs et dans mille autres domaines confrontés à la flambée de l'inflation. Bon, mais enfin, cette participation aux frais de 15%, elle reste très en dessous de ce qu'ont déjà payé tous nos voisins. Songez que les factures d'électricité des Allemands ou des Hollandais ont déjà plus que doublé depuis un an. Au Royaume-Uni, les tarifs doivent encore augmenter de 80% au 1er octobre. Chez nous, on en est loin. Et en vérité, si on regarde les choses de près, on se rend compte que cette augmentation que nous allons subir ne couvre qu'une toute petite part, 10 à 12% tout au plus, de la réelle augmentation du prix du mégawattheure de gaz ou d'électricité. Le reste, c'est-à-dire en gros 90%, doit être couvert par le fameux bouclier tarifaire qui est toujours là et qui devrait tout de même coûter à l'État la bagatelle de 18 milliards d'euros net.
Donc au fond, rien ne change, Alexis ?
En vérité, pas grand-chose. La mécanique infernale du quoi qu'il en coûte est corrigée à la marge, mais elle est toujours à l'œuvre. La France reste ce pays picousé au bouclier, au chèque, aux prêts garantis, aux ristournes en tout genre. Et qui sont financés comment ? Ben par la dette, évidemment, parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront demain cette facture énergétique que nous refusons d'acquitter aujourd'hui.
Mais est-ce qu'au moins les Français seront reconnaissants au gouvernement d'avoir limité la casse à court terme ?
Ben, dans une certaine mesure, ce serait justice, mais au fond, je veux dire, j'y crois pas trop. D'abord, parce que la reconnaissance est une vertu admirable, certes, mais enfin qui est rarement pratiquée par les électeurs. Mais surtout parce que sur cette crise énergétique plane l'ombre d'une véritable faillite d'État. Vous savez, ce fameux État stratège censé voir loin, agir clair. Une faillite dont l'actuel président aura un peu de mal à s'exonérer.
Vous voulez parler de l'état catastrophique du parc électronucléaire français?
Bah oui, bien sûr. Chacun a fini par comprendre que c'était là le cœur du problème. Que nous ne manquions pas, en tout cas pas principalement, de gaz russe, mais surtout d'électricité française, parce que la moitié de nos centrales nucléaires sont en carafe, c'est ahurissant. Ouais. Et évidemment, il serait absurde de faire d'Emmanuel Macron le seul responsable de ce désastre invraisemblable. EDF à sa part, RTE aussi, puis il y a eu la faute à pas de chance, et puis bien sûr, il y a François Hollande, qui pour complaire à ses alliés écologiques a annoncé la fermeture de Fessenheim, tout ça est vrai, tout ça est bel et bon. Mais enfin, c'est quand même Emmanuel Macron qui a effectivement fermé Fessenheim alors que rien n'est obligé. C'est lui encore qui a inscrit dans la loi, elle est d'ailleurs toujours en vigueur bizarrement, la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires. Et c'est lui qui, durant 5 ans, a tergiversé avant de se décider à envisager la relance du nucléaire. Tout ça, c'est lourd à porter. L'ombre de Fessenheim, il est là pour Emmanuel Macron, le vrai danger. En dépit de tous les boucliers de la Terre que les Français, chaque mois, quand ils recevront leur facture d'électricité, raniment et ruminent leur colère au souvenir de ces occasions manquées.
Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro, gaz, électricité, les vraies raisons de la hausse des prix. Et bien très justement, merci beaucoup Alexis. Il est 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, juste après le journal de 8h, Louis Gallois, le coprésident de la Fabrique de l'Industrie, est ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, excellente journée.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, Paris va devoir justifier ses refus de rapatrier les femmes et enfants de djihadistes détenus en Syrie. Décision de la Cour européenne des droits de l'homme et éclairage dans un instant de William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Plus 15% sur la facture de gaz et d'électricité à partir du 1er janvier prochain. Augmentation contenue, se réjouit le gouvernement grâce au maintien du bouclier tarifaire. Le pire est-il passé dans le Médoc après 3 jours d'incendie qui ont ravagé 3700 hectares de forêt. Le brouillard, l'humidité ce matin sur le terrain viennent soulager les pompiers. Et puis une révérence, des larmes, dernier adieu aujourd'hui à Londres, à la reine Elisabeth II. Nous serons en direct avec notre correspondant européen Stéphane Place. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mon invité, Louis Gallois, il a été patron de la SNCF et d'Airbus. Il a l'un des plus beaux CV de l'industrie française, justement. D'industrie, il sera question, d'énergie évidemment, de nucléaire bien sûr. Vous l'entendrez, notre invité. Éviter un regard sévère, mais lucide dans ce domaine.
À tout à l'heure. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un revers, un camouflet pour la France. Hier, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par 2 familles de djihadistes françaises détenues en Syrie, a condamné Paris pour n'avoir jamais examiné, jamais répondu à leur demande de rapatriement. William Molinier, vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Ce qui est condamné là, c'est la façon dont la France gère le retour de ses ressortissants partis rejoindre Daesh. Une doctrine qui n'était pas assez claire.
Absolument, la France paye une forme d'opacité car pendant longtemps le Quai d'Orsay a dit appliquer une politique de cas par cas. En fait, la diplomatie française a préféré laisser les familles entre les mains des Kurdes plutôt que de s'encombrer avec des rapatriements. Mais cette position s'est au fil des ans heurtée à celle des services de renseignement intérieur et notamment la DGSI, pour qui il est bien plus facile de suivre sur le territoire national ces profils pour prévenir d'éventuels passages à l'acte. Cet été, la doctrine française a discrètement changé, ce qu'Olivier Véran a lui-même reconnu hier en compte-rendu de Conseil des ministres.
On n'a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer, puisque cet été, c'était au mois de juillet, la France a procédé au rapatriement de 16 femmes qui étaient au nord-est de la Syrie et d'une 30aine d'enfants. Ça veut dire que nous avons déjà fait évoluer les règles d'examen et de rapatriement des ressortissants français qui sont encore au nord-est de la Syrie.
Avec cette décision, la France va devoir faire preuve de plus de transparence à l'égard de ces familles de djihadistes. Hier, le Quai d'Orsay s'est déjà dit prêt à organiser de nouveaux rapatriements.
William Molinier.
Voilà, cet arrêt de la CEDH rendra-t-il systématique le retour des djihadistes? On en parlera tout à l'heure avec nos éditorialistes à 8h40. Préparez-vous à baisser le chauffage cet hiver et plus encore l'année prochaine. Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité vont augmenter de 15%.
Annonce hier d'Elisabeth Borne qui confirme le maintien du bouclier tarifaire en 2023. Sans lui, les prix auraient tout simplement doublé. Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, un chèque énergie sera versé à 40% des ménages, soit 12 millions de foyers, 200 euros pour les 20% les plus modestes et 100 euros pour les autres. Et dès aujourd'hui, près de 11 millions de foyers bénéficiaires des minima sociaux vont percevoir la prime inflation. Elle s'élève à 100 euros plus 50 euros par enfant à charge.
Pouvoir d'achat, énergie, le gouvernement a du pain sur la planche, mais n'en oublie pas pour autant la réforme des retraites.
Emmanuel Macron y tient, même s'il doit la faire passer en force. Arthur Delaborde, le chef de l'État, envisage même de l'intégrer dès cet automne au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Oui, selon nos informations, Emmanuel Macron envisage clairement de faire passer la réforme des retraites dans le budget de la Sécu. Concrètement, un amendement pour relever l'âge légal ou allonger la durée de cotisation pourrait être inclus dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui arrive le 20 octobre en séance à l'Assemblée. Hypothèse qui fait bondir les oppositions, d'autant que dans le même temps, le chef de l'État n'exclut pas de brandir l'arme du 49-3 pour faire adopter le texte, sauf si le gouvernement est renversé. Coup de force, dénonce le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud.
Quelle concertation préalable est possible dans ces cas-là? Quel respect du dialogue social, du débat parlementaire pour un sujet qui est un sujet important? Non, ce n'est pas admissible de fonctionner de cette manière-là et à toute force vouloir en réalité imposer une réforme que les Français ne veulent pas.
Colère aussi exprimée presque dans les mêmes termes par les communistes, les insoumis et le Rassemblement national. Et même s'ils plaident pour une réforme des retraites, les Républicains préviennent qu'ils ne voteront pas le budget de la sécurité sociale dans ces conditions. L'idée est aussi accueillie froidement dans la majorité. Plusieurs poids lourds de la Macronie y sont opposés.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Il est 8h05, l'actualité à l'étranger avec la démission hier soir de la première ministre suédoise Magdalena Andersson.
Contrainte de reconnaître la défaite de son camp après les résultats quasi définitifs et la victoire de l'alliance entre la droite classique et le parti populiste des démocrates, 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche. Le conservateur Ulf Kristersson, qui devrait devenir le prochain chef du gouvernement, écrit « Merci pour la confiance, maintenant nous allons remettre de l'ordre en Suède ».
Nous revenons en France, en Gironde, l'incendie est contenu mais pas fixé.
Et on retrouve sur place à Sainte-Hélène dans le Médoc l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour.
3700 hectares sont partis en fumée, c'est énorme. Plus de 1800 personnes évacuées depuis lundi. Bon, heureusement, ce matin, il y a quand même de l'espoir. La situation s'améliore, hein, Benjamin.
Oui, tout à fait. L'incendie n'a pas progressé cette nuit. C'est la très bonne nouvelle. Les hommes du colonel Éric Florençon, qui est en charge des opérations de secours, ont notamment bénéficié d'une nette amélioration des conditions météo.
On a perdu plusieurs degrés, ça c'est important. Le taux d'humidité qui remonte, c'est aussi important. Quasiment 90% de taux d'humidité, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel taux. Il y a eu très peu de vent, voire pas de vent pendant la nuit. Et c'est une première depuis plusieurs jours. Donc le travail de la matinée, ça va être sécurisé, continuer à sécuriser toutes les lisières. De façon à profiter de cette petite accalmie condition météo.
Alors, signe de cette humidité, cet épais brouillard qui recouvre le massif ce matin. À Sainte-Hélène, où la moitié du village a été évacué, cette accalmie est bienvenue, alors que le maire Lionel Montillot sent bien la lassitude et la colère gagner la population.
Nous, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut gérer la logistique. Difficile parce qu'on est confronté à l'inconnu, la colère, l'incompréhension des gens. Et puis, on voit son massif, on voit sa forêt fondre. Et c'est désolant. Quand on est comme moi, et on est nombreux à être comme moi, un enfant de Sainte-Hélène, quand on voit notre forêt être détruite comme ça, on est triste et en colère. Oui. Une récurrence des événements qui use.
Et dès que le brouillard se sera levé, les moyens aériens, 6 Canadair, 3 Dash, 2 hélicoptères bombardiers d'eau vont reprendre leur rotation avec pour objectif de fixer enfin cet incendie.
Merci Benjamin Péter en direct de Sainte-Hélène pour Europe 1.
Enfin, sensible, s'abstenir. C'est le meurtre de plusieurs personnes en direct que nous allons visionner. Ça, c'est la mise en garde de l'avocat général au procès de l'attentat de Nice.
Ah oui, la vidéoprotection de la ville de Nice, cette nuit du 14 juillet 2016, va être diffusée aujourd'hui. Les images sont bouleversantes. Leur diffusion avait d'ailleurs fait l'objet d'âpres débats la semaine dernière. Mais pour beaucoup de parties civiles, il est important que l'horreur soit montrée durant le procès. Frédéric Michel, vous êtes en direct avec nous. Bonjour, vous suivez ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. Racontez-nous ce qu'on voit sur ces vidéos.
Les images, toutes les images de cette nuit d'horreur. Il est 21h34 ce 14 juillet lorsque Mohamed Laouesh Boulel apparaît sur les premières vidéos. On le voit à vélo s'approcher du camion, stationner sur un boulevard, puis circuler dans la ville avant de disparaître des écrans pendant 41 longues minutes. À 22h33, le 19 tonnes s'engage sur la promenade des Anglais, puis feu éteint. Il monte sur le large trottoir et fauche ses premières victimes. Des passants s'écartent, d'autres ont moins de chance. Le véhicule multiplie les embardées et cible délibérément des groupes. La vidéo montre qu'il fonce sur deux jeunes enfants alors qu'il peut les éviter. Puis il vise un stand de bonbons. Cinq caméras filment la scène. Le terroriste semble connaître les lieux car il redescend sur la route à l'approche de pergolas sous lesquelles il ne peut pas passer. Les vidéos sans aucun son montrent aussi une voiture de police à sa poursuite, mais elle est gênée par la foule. On distingue un piéton et le pilote d'un scooter qui tente de s'interposer. Un peu plus loin, des centaines de personnes assistent à un concert. Beaucoup tourne le dos au camion, des dizaines de malheureux sont happés, écrasés. Quelques secondes plus tard, le camion cale, une caméra filme l'arrière du véhicule, une fusillade éclate. Elle va durer une longue minute, à 22h37 et 44 secondes, Laouesh Boulel est neutralisé.
L'horreur en images et en silence, la journée sera difficile au procès de l'attentat de Nice aujourd'hui. Merci Frédéric Michel.
Allez, Europe 1, 8h09, direction Londres, la capitale britannique, comme suspendue, figée, le temps du recueillement.
Oui, les Londoniens ont jusqu'à lundi pour dire adieu à leur reine. Devant Westminster Hall, où le cercueil d'Elisabeth II est exposé, la file d'attente s'étire sur près de 8 km. Stéphane Place, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon, vous vous trouvez exactement à Lambeth Bridge, face à Westminster, de l'autre côté de la Tamise, auprès de ces Britanniques qui ne manquent ni de patience ni de détermination.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Parfois vêtus d'un gros blouson, une couverture de survie sur les épaules, les yeux rougis de fatigue et parfois portant un élégant costume, la cravate à peine dénouée. J'ai même croisé tout à l'heure une dame coiffée d'un charmant bibi noir, une voilette de deuil devant les yeux. Tous les styles, toutes les générations, mais un objectif commun, atteindre Westminster Hall pour s'incliner devant le cercueil et rendre cet ultime hommage à la reine. Dorothy fait partie de ces milliers de Britanniques qui font la queue depuis hier soir.
Nous avons rejoint la file à minuit 20 à la Tour de Londres.
Avez-vous eu froid ou faim cette nuit ?
En réalité, non. Nous nous sommes fait des amis. La nuit s'est déroulée dans le respect et le calme. Nous sommes heureux d'être ici.
Ça vaut le coup d'attendre ?
Sans aucun doute, la reine mérite cette attente.
Des Britanniques patients, calmes et deux Françaises également dans cette interminable file d'attente, Ludivine et Carline.
Depuis minuit, et là, il est quelle heure ?
On n'en peut plus. Et ils disent que c'est encore long.
On a entendu 2 heures, 4 heures, 5 heures. Mais bon, voilà, il faut le prendre comme une expérience. Il y a une bonne ambiance.
Il ne fait pas froid, il ne pleut pas. Bah, je pense que c'est vraiment une icône, vraiment pour tout le monde. Oui, c'est un peu la grand-mère de tout le monde.
C'est historique, donc je pense que c'est important de le faire.
Et tout le long du parcours, ici au bord de la Tamise, des stewards en gilet jaune qui glissent un bonjour à ces anonymes, qui les guident, les encouragent avec un flemme imperturbable, un flemme so British.
Merci beaucoup Stéphane Place, on pourrait presque
Stéphane
dire.
Stéphane Place,
envoyé spécial
qui dit flemme, un flemme.
Ah oui, voilà, flegme anglais. Merci Stéphane Place.
Allez, faites preuve de flegme Stéphane, merci. Merci à vous aussi également Fanny. Dans un instant sur Europe 1, Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'Industrie, ancien patron d'Airbus et de la SNCF, et l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Europe 1, 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est aujourd'hui le coprésident de la Fabrique de l'Industrie.
Et il a été patron de la SNCF et d'Airbus notamment. On a coutume de dire l'un des plus beaux CV de l'industrie française. On va parler notamment d'industrie. Bonjour à vous Louis Gallois et bienvenue sur Europe 1. Alors l'hiver risque d'être tendu, augmentation contenue des prix de 15% en 2023. La première ministre Elisabeth Borne a donc annoncé la prolongation du bouclier tarifaire pour endiguer cette hausse. Le bouclier tarifaire, ce quoi qu'il en coûte, tarifaire toujours à l'œuvre. Est-ce que c'est la bonne option, selon vous ?
Je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour le moment. C'est une mesure d'urgence. Si on veut limiter les hausses de prix de l'énergie, et c'est le cas dans tous les pays d'Europe, on met en place un bouclier tarifaire. Ça coûte les yeux de la tête.
Ah, donc c'est au prix de la dégradation de nos comptes publics.
Écoutez, le paquet annoncé hier par Mme Borne et par Bruno Le Maire représente un peu plus de 20 milliards, donc c'est-à-dire un point de PIB. C'est considérable. c'est considérable. On peut pas faire ça plusieurs fois, surtout que ça succède à des mesures déjà prises. Moi, je pense qu'il fallait prendre ces mesures
pour protéger.
Pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour soutenir un certain nombre d'entreprises. Ces mesures sont justifiées. Mais il faut savoir que ça ne peut pas être la solution de moyen terme. La solution de moyen terme, c'est de faire en sorte que ces hausses de prix soient modérées elles-mêmes, c'est-à-dire que le prix de l'énergie puisse être contrôlé. Que ce soit le gaz, il va bien falloir trouver des solutions au gaz russe. C'est une impasse dans laquelle les Allemands nous ont mis, il faut le dire très franchement. Nous nous trouverons dans une situation où il faut reconstituer nos approvisionnements en gaz et sur des bases de prix qui soient celles du prix mondial, parce qu'actuellement l'Europe paye le gaz plus cher que le prix mondial.
Mais justement, Louis Gallois, qu'attend l'Union européenne pour nous dire très concrètement comment réformer le marché de l'électricité européen? Est-ce qu'on peut rester longtemps dans ce système qu'on appelle du coût marginal, je le précise pour nos auditeurs, qui aligne le prix de l'électricité de gros sur la dernière unité de mise en production, généralement le gaz.
Qui est le gaz.
On peut rester longtemps aussi.
Non, il faut d'une part peser sur le prix du gaz, je viens d'en dire un mot, et ensuite, il faut déconnecter le prix du gaz du prix de l'électricité. Ça, c'est une affaire européenne. Et moi, je souhaite que l'Europe aille aussi vite que possible dans cette direction.
C'est le cas. Est-ce qu'on est là? Pour l'instant, ils réfléchissent.
L'Europe, le problème, c'est que l'urgence, pour eux, c'est en moi. Non, c'est une question de semaine. Il faut aller vite. Il faut aller vite dans ce domaine. On ne peut pas continuer à avoir un système de prix qui, en période de crise, fait exploser le prix de l'électricité.
Il est absurde, ce système.
Il est justifiable, je ne suis pas un fanatique de ça, mais il est justifiable hors crise. Mais il ne l'est plus du tout pendant les périodes de crise. Donc il faut sortir de ça, c'est absolument essentiel.
Louis Gallois, ça veut dire que des mesures comme le bouclier tarifaire sont prises en France, avec quand même un coût, une dégradation de nos comptes publics, et elles vont rester, ce bouclier tarifaire va être prolongé, elles viennent compenser... Alors, l'absurdité, ou en tout cas, ce système européen...
Elle vient de compenser, à l'origine, une augmentation du prix du gaz qui se répercute sur le prix de l'électricité. Il y a d'autres causes pour la hausse du prix de l'électricité, notamment le fait qu'une partie de nos réacteurs ne sont plus en service, le fait que les Allemands ont arrêté les leurs. Donc, nous avons perdu de la capacité de production d'énergie pilotable en Europe. Ça fait monter les prix. D'électricité pilotable, excusez-moi. Ça fait monter les prix, inévitablement. Mais pas au niveau que nous connaissons actuellement.
Mais la situation aujourd'hui, on va importer d'Allemagne, on va importer de l'électricité, mais on marche sur la tête.
On marche un peu sur la tête. Je crois qu'on n'a pas du tout anticipé le fait que nous allions vers une période où le nucléaire ne pourrait pas produire autant que dans le passé parce qu'il faut faire la maintenance et ce qu'on appelle le grand carénage des centrales. L'autorité de sûreté nucléaire avait dit depuis plusieurs années qu'il fallait se créer des marges de manœuvre.
Pourquoi on ne les a pas écoutées? Pourquoi on n'a pas écouté l'autorité de sûreté nucléaire?
Je n'ai pas d'explication, j'en ai une seule.
Laquelle?
C'est qu'on a minoré le besoin d'électricité. Et je pense que un certain nombre de groupes de pression ont minoré ces besoins d'électricité.
Nommons-les. Comment ils s'appellent ces groupes de pression?
De tous ordres.
Des lobbies?
Des lobbies.
Antinucléaires, partout?
Des lobbies antinucléaires qui ont minoré la demande d'électricité. Ça s'est traduit par un certain nombre d'administrations qui ont relayé ça. RTE, pour ne pas le nommer. Il y a quelques années,
le gestionnaire de transport d'électricité.
On se retrouve donc dans une situation de pénurie en France. Il y a en plus des problèmes de corrosion, mais ils vont être traités. Mais donc, on se trouve dans une situation de pénurie en France et de pénurie en Europe.
Mais Louis Gallois, ça veut dire qu'on a ignoré, notamment RTE, le gestionnaire de transport d'électricité, a ignoré les mises en garde de l'autorité de sûreté nucléaire qui nous disait depuis des années qu'on allait avoir un manque de marge. Et aujourd'hui, RTE nous dit que le risque de coupure, attention, il peut être maîtrisé à condition que nous fassions des efforts. Il élabore plusieurs hypothèses, dont celle de nombreuses coupures cet hiver.
Alors, RTE, d'abord, a bougé depuis plusieurs années. Et l'an dernier, il a fait des prévisions de consommation d'électricité beaucoup plus élevées. Il faut le reconnaître. Donc, il a bougé sous la pression des faits. Mmh. Hein, mais maintenant, il nous annonce la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans une situation de pénurie. Moi, je ne pense pas qu'on ira à une crise majeure d'approvisionnement d'électricité cet hiver, parce qu'on est capable quand même de trouver des solutions. Mais il va falloir prendre des mesures de sobriété. Vous savez, la célèbre formule, il vaut mieux la sobriété choisie que le rationnement subi. c'est le président de la République qui a dit ça. C'est très joli, mais enfin, ça va nous amener à des mesures de sobriété. Bon, il faudra les prendre.
Louis Gallois, j'ai rappelé, et nos auditeurs le savent, vous avez été patron de la SNCF et d'Airbus. Un autre patron, là, récemment, a parlé, a poussé un coup de gueule. Patron d'EDF, bientôt ex-patron d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy. Mais est-ce qu'il n'avait pas raison, en somme, de dire « Mais moi, on m'a dit de fermer des réacteurs. On m'a dit de lever le pied. »
Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans cette querelle de savoir si EDF est fautif ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on savait quel était le programme de maintenance et de grand carénage des centrales actuelles. Deuxièmement, on a depuis 1999, on a lancé qu'une seule centrale, c'est Flamanville.
Et on a fermé combien ? 13 gigawatts.
Et on a fermé 13 gigawatts
de capacité pilotable.
De capacité pilotable. Et je crois qu'il faut le dire aux auditeurs. Pour passer les pointes de consommation, il faut des capacités pilotables. Parce que les pointes de consommation peuvent ne pas coïncider avec le vent ou avec le soleil.
Attendez, donc les énergies renouvelables ne nous permettent pas de passer ces pointes.
Les énergies renouvelables ont leur justification, mais certainement pas de passer les pointes. Parce que pour les pointes, elles sont inopérantes. Il suffit que nous ayons, comme nous l'avons eu l'hiver dernier, une période pendant l'hiver, il n'y a plus de solaire pendant l'hiver, où l'anticyclone est positionné de telle manière qu'il n'y a pas de vent dans tout sur l'Europe pour que l'éolienne rapporte zéro. Donc il faut du pilotable. Les Allemands, le pilotable, c'est le charbon. Hein, le gaz et le charbon. Et je pense d'ailleurs, nous, qu'en France, en attendant que le programme nucléaire qui va être lancé soit en service, je pense qu'il va falloir que nous regardions si nous ne devons pas développer des capacités en gaz. C'est quand même aberrant, mais on risque d'en arriver là.
Aberrant. Le discours de Belfort d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, est-ce qu'il a donné, c'est important aussi, et en tant que patron, vous le savez tellement, une vision pour une planification dans ce domaine ? Est-ce qu'on sait vers où on va ?
Je pense que, d'abord, c'est une étape très importante. Il a annoncé 6 réacteurs, puis 8 derrière. C'est une étape très importante. C'est j'allais dire que la France est remise dans le chemin. Mais maintenant, ce chemin, il faut le tracer. D'ailleurs, il faut une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. On ne peut pas rester sur l'ancienne, qui est d'ailleurs
toujours... Elle est caduque, l'ancienne ?
Elle est caduque, mais elle est toujours en service. Elle est toujours effective, tant qu'il n'y en a pas une nouvelle. Et cette programmation pluriannuelle nous prépare à la fermeture de 12 réacteurs, au-delà des 2 de Fessenheim. Ce qui est aberrant. On sait très bien que la nouvelle PPE, puisqu'on l'appelle ainsi, va prolonger les centrales actuelles. Mais il faut le dire, il faut qu'on organise cette planification, ne serait-ce que pour l'industrie nucléaire. Elle a besoin de se mettre en ordre de bataille.
Filière. Mais attendez, Louis Gallois, combien faut-il d'années pour construire en France une centrale ? Nous avons fait une enquête.
15
ans. Dont 7 ans de procédure ?
7 ans, minimum 7 ans de procédure.
Quand on compare à d'autres pays, il y a quand même un problème, non ?
C'est très long. Ça ne peut pas se faire très rapidement, mais c'est très long. Et je pense qu'il faut simplifier les procédures. Il y a un projet de loi pour la simplification des procédures pour les énergies renouvelables. J'attends un projet de loi pour la simplification des procédures pour l'énergie nucléaire. Il y a des procédures qu'il ne faudra pas simplifier parce qu'elles sont essentielles, c'est celles qui touchent à la sécurité.
La sûreté, bien sûr. Il y a ce dont vous parlez, les procédures, il y a les compétences humaines. Vous avez été, Louis Gallois, dans des industries de haute technologie, évidemment, oui, comme l'aéronautique. Est-ce qu'on a encore en France les compétences nécessaires dans le nucléaire ? Est-ce que nos futurs ingénieurs, ceux qui nous écoutent, là, les plus jeunes, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans ce domaine-là ? Est-ce qu'on leur donne envie d'avoir envie ?
Mais pour qu'ils aient envie, il faut d'abord leur dire où on va. Hein, il faut donc tracer la route et leur dire on va développer un programme nucléaire. Et ce programme nucléaire, il est bon pour le pays. Il est décarboné, il est compétitif, il assure l'indépendance de la France. Ça, ce sont des choses essentielles qu'il faut dire. décarboner, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui croient que l'énergie nucléaire crée de l'oxyde de carbone, ce qui est aberrant. Donc, il faut leur dire ça. Et il faut leur dire que les problèmes des déchets, on sait les traiter. Dans le monde entier, on est en train de traiter ce problème des déchets. Il faut leur dire ça. Les accidents, jusqu'à maintenant, on les a maîtrisés.
Là, vous en parlez avec verve. On sent que gâchis français...
Il y a deux filières technologiques en France que nous maîtrisons de A à Z. C'est l'aéronautique et le nucléaire. Il faut le garder, ça. C'est un atout formidable. C'est 200 000 personnes qui travaillent là-dedans dans la très haute technologie. C'est l'industrie de demain. Et je pense d'ailleurs qu'il faut maintenant... regardez la nouvelle génération des réacteurs à neutrons rapides et ça me paraît absolument essentiel. On a arrêté Astrid, suspendu. Je ne sais pas les raisons exactes de cette suspension. Moi, quand j'étais commissaire général à l'investissement, j'ai financé Astrid. Et je l'ai financé parce que je pensais que c'était un programme très important. Donc, nous pensions, parce que c'est pas moi qui décidais de mettre l'argent seul, mais ça me paraissait très important. On a arrêté ça. Alors que la France, sur les réacteurs à neutrons rapides, a une expertise. Eh bien, il faut relancer un programme là-dessus.
Nous avons reçu il y a quelques jours Nicolas Dufourcq, patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui a raconté dans un livre édifiant vraiment l'histoire de la désindustrialisation, en particulier sur la période 95-2015. Vous avez écrit l'épilogue de cet ouvrage. Est-ce qu'on peut rattraper, en termes d'industrie, tout ce temps perdu, parce que ce livre montre l'hémorragie industrielle dans notre pays.
Eh ben écoutez, il y a le sursaut. Le livre montre qu'on a perdu la moitié de notre industrie. C'est en 25 ans. C'est absolument dramatique. C'est un drame que nous voyons dans le chômage, que nous voyons dans le déficit de notre balance commerciale, que nous voyons dans des territoires à l'abandon. C'est le drame national de la France sur les 20 dernières années. Donc il faut rattraper ça. Et il y a des choses qui sont en train de se faire.
Mais qu'est-ce que vous dites aux tenants de la décroissance qui profitent, à l'aune de cette crise, oui, disent il faut moins produire. C'est bien la preuve qu'il faut moins produire.
Ils m'expliqueront comment on fait pour satisfaire les besoins des Français en produisant moins. Ça va être de l'importation. Comment on va faire? Et puis, je crois que la décroissance, c'est une impasse. C'est une passe. Bien sûr qu'il faut une croissance modifiée, qui tienne compte des préoccupations écologiques et surtout énergétiques et climatiques. Mais je crois que la croissance, elle est indispensable parce que c'est elle qui permet à une société de vivre, de se projeter dans l'avenir, de lancer des programmes, d'avoir un projet.
On entend ce plaidoyer. Pour conclure sur l'urgence climatique, je voudrais interroger le patron que vous avez été quand même à la tête de la SNCF, d'Airbus, président du conseil de surveillance de PSA, donc tous les moyens de transport. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces injonctions à moins prendre l'avion, tout ce débat autour des avions, des jets?
Écoutez,
et tout cela.
Écoutez, je pense que tous les moyens de transport ont leur vocation. On n'ira pas en Chine en vélo ou en bateau à voile.
Oui.
On peut, mais c'est compliqué.
C'est une expédition.
Donc je crois que l'avion, évidemment, a de l'avenir. Peut-être que sur Paris-Bordeaux, je fais référence au football, c'est peut-être
compris.
Moins utile, ou Paris-Nantes.
Oui.
Mais je crois que l'avion a complètement sa justification. Mais l'avion fait d'énormes progrès chaque année pour réduire son empreinte carbone. C'est à peu près 2% des émissions de carbone.
L'avion,
je rappelle que le numérique, c'est 5% et que ça galope, que ça sera 10, 15, 20% bientôt. Chaque fois que vous faites un like, vous produisez 3 grammes de CO2. Il y a 1 milliard de likes par jour dans le monde. Ça veut dire faites le calcul.
Likez l'interview de Louis Gallois si vous l'avez aimé.
C'est une bonne idée.
Merci en tous les cas, Louis Gallois, d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous.
Journée.
Merci Louis Gallois, merci Sonia Mabrouk. On vous likera aussi toujours. 8h29 sur Europe 1. Dans un instant, les signatures Europe 1. Géraldine Vosner nous parlera du débat sur la fin de vie et Emmanuel Ducrot nous parlera tracteur. A tout de suite.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
Une hausse limitée à 15% pour les tarifs régulés du gaz et de l'électricité l'année prochaine. Le nombre de bénéficiaires du chèque énergie va doubler. 12 millions de foyers vont recevoir une aide d'un montant maximal de 200 euros. Quelques-unes des annonces d'Elisabeth Borne hier à l'occasion de la présentation du bouclier tarifaire. Les Français invités à modérer leur consommation de gaz et d'électricité, surtout si l'hiver est froid. RTE et GRT Gaz demandent aux particuliers d'économiser 5% de leur consommation habituelle et jusqu'à 15% en cas d'hiver particulièrement rude. Les deux opérateurs mettent chacun un outil en place pour connaître en temps réel l'état de la consommation en France et éviter les coupures. MonEcoWatt.fr pour l'électricité est accessible dès maintenant. Un système similaire est prévu pour le gaz courant octobre. Une accalmie sur le front des incendies qui ravagent la Gironde. Le feu n'a pas progressé cette nuit, même s'il n'est pas encore fixé. Plus de 3700 hectares ont été détruits. Près de 2000 personnes ont dû quitter leur maison à Somos et Sainte-Hélène. Avec 176 sièges contre 173 à la gauche, la droite et l'extrême droite remportent les législatives en Suède. La première ministre sortante prend acte de la défaite de son camp et annonce démissionner aujourd'hui. Emmanuel Macron sera présent aux obsèques de la reine Elisabeth II lundi prochain à Londres. Le chef de l'État a appelé le roi Charles III pour lui présenter ses sincères condoléances. Le PSG enchaîne une deuxième victoire en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 3 buts à 1 hier sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Enfin en basket, la France affrontera la Pologne demain en demi-finale de l'Euro. Les Bleus se sont imposés dans la douleur hier et après prolongation face à l'Italie, 93 à 85.
Merci Christophe. Le ciel.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
On a encore quelques coups de tonnerre ce matin, Anissa Dani.
Oui, c'est moins fort qu'hier. On n'a aucun département vigilance orange, mais encore quelques coups de tonnerre sur le grand quart nord-est. Le Grand Est est concerné, hein, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Massif central. Les Vosges, le Jura sont concernés, une partie de la Savoie aussi. Voilà, vous allez entendre le tonnerre gronder et vous allez peut-être avoir droit à une ou deux averses de grêle. Donc il faut rester vigilant dans le nord-est. C'est pas franchement une journée très agréable pour vous. Sur la moitié sud, ça va beaucoup mieux qu'hier. Ça se calme entre l'Aquitaine et la Côte d'Azur. On a un temps bien plus sec, plus ensoleillé. Mais attention, cet après-midi, on a des nuages qui bloquent là sur les Pyrénées. Ils n'arrivent pas à les passer. Et du coup, ces orages seront porteurs d'averses orageuses. Sur le nord, ce matin, c'est gris sur la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France. C'est humide, c'est gris, c'est pas terrible, c'est automnal. Ça va s'arranger cet après-midi avec de belles éclaircies. Côté température, ça y est, ça baisse, je vous avais prévenu, à partir de jeudi, bah c'est confirmé, 19 à Cherbourg cet après-midi, 20 à Lille, 22 à Paris, 24 du côté de Clermont-Ferrand, 29, alors ça reste chaud dans le sud, hein, 29 à Marseille, Ajaccio, Nîmes, Toulouse, Montpellier et 32 à Nice, on a même 31 degrés du côté de Saint-Tropez.
Merci beaucoup Anissa, excellente journée, 8h35.
7h, 9h,
Europe Matin.
Allez, dans 5 minutes, le club de la presse Europe 1, Charlotte Dornelas et David Revaud-Allonne du journal du dimanche. On parlera de cette condamnation de la France par la CEDH dans le dossier du retour des djihadistes. Mais d'abord, les signatures Europe 1. Bonjour Géraldine Vosner.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Emmanuel Macron veut lancer une consultation citoyenne sur la fin de vie. Alors, vraie question, mais faux débat d'après vous.
Oui, depuis 3 jours, ça tourbillonne en brassant de l'air et les mêmes arguments depuis 20 ans. Dimitri, 20 ans d'opposition, de posture plus ou moins populiste sur un sujet sensible. Je ne sais pas vous, mais moi, la perspective de 6 mois de débat autour de l'expérience personnelle de Lynn Renault et de la façon dont elle rêve de quitter la scène, ça m'épuise. Et quand je pense aux goupillons qui vont s'élever contre, je suis carrément effondrée. Vous noterez qu'on entend peu les philosophes, les soignants, les politiques même, qui savent, eux, que le sujet exige de la nuance, mais qui se taisent, paralysés par la mièvrerie des débats, le narcissisme des témoignages. Sur ce sujet, on ne pense pas, on remue nos angoisses avec une hypocrisie qui en devient embarrassante.
Mais alors, qui est hypocrite dans cette histoire ?
Mais tout le monde, Dimitri, les pour, les contre, le président, ils poursuivent un but personnel sans le moindre souci des conséquences collectives. C'est fascinant. Regardez le président dont le quinquennat est rugueux, un bon débat de société bien polarisant, ça distrait des factures. Et comme les Français sont pour abréger les souffrances des gens à une large majorité, une loi aurait des chances d'aboutir, ce serait un coup politique. Et puis, il l'a promis à la star, à Lynn Renault, qui a pris la tête de cette croisade. Et il est intéressant le discours de Lynn Renault. Elle nous dit qu'elle veut mourir dans la dignité, qu'elle ne supporterait pas de devenir un légume. Mais qu'est-ce que c'est un légume? Quelqu'un de paralysé, d'incontinent? On mène une vie indigne quand on perd la boule, qu'on est alimenté par une sonde nasale? Qui décrète qu'un être humain atteint à un moment un stade où sa vie n'est plus digne d'être vécue? On peut le ressentir pour soi-même, hein, bien sûr, selon son éducation, son milieu social, comme Lynn Renault, comme Jean-Luc Godard. Mais imposer cette subjectivité à tous, c'est quand même audacieux. Et inscrire ça dans la loi, bah, ce serait rompre une digue. Elle ne pense pas, Lynn Renault, aux idées que ça pourra faire naître dans l'esprit de petits-enfants qui en aura le bol de payer les pas de mamie, dans celui de vieillards qui se sentiraient demain des boulets pour leurs proches. Le libre consentement qui serait exigé pour ce droit à mourir n'est pas libre quand il est soumis à une pression sociale.
Est-ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, Gerline, c'est très fort, c'est très juste. Ce sont des questions justement que la Convention citoyenne promise par Emmanuel Macron pourra mettre sur la table.
Ben, on verra si ses membres ne sont pas influencés par d'autres intervenants ou par leur propre biais. Ce que disent les militants pro-euthanasie aujourd'hui, que s'ils ont choisi leur vie, ils doivent pouvoir choisir leur mort. Ça reflète un glissement dans nos sociétés devenues individualistes à un point maladif. Les gens ne voient plus la mort depuis en gros 40 ans. On vieillit dans les EHPAD, on meurt à l'hôpital, plus à la maison. On a délégué la gestion du grand âge à la collectivité. Et comme la mort nous angoisse, ben on veut la maîtriser. C'est la société de l'hyper-contrôle. Je n'ai pas le courage de me suicider, alors j'exige des autres, de la société, du corps médical, qu'il assume ce poids à ma place. C'est d'un égocentrisme sidérant, propre à nos sociétés occidentales. Alors bien sûr, le débat aura lieu, ces dérives, elles seront soulevées. On va sans doute élargir les possibilités de recouvrir à cette mort accompagnée. C'est bien, il y a des situations douloureuses, insolubles aujourd'hui, il faut pouvoir les traiter. Mais le vrai sujet derrière ce débat, il n'est pas celui du bien mourir en réalité, il est celui du bien vivre ces dernières années. Un tiers des patients, un tiers Dimitri, n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs, on manque de lits, de personnel. La psychiatrie est dans une crise encore plus grave, totalement sinistrée, alors que la dépression souvent entraîne ces envies de suicide. Les EHPAD sont en crise, il y aura 2 millions de personnes âgées dépendantes en 2040. Qui va payer ? Est-ce que la société doit toute assumer? C'est la raison pour laquelle 96% des soignants de soins palliatifs sont contre l'euthanasie. Parce que c'est ça le vrai tabou qui sous-tend ces débats. On se grandirait à le reconnaître et à s'attaquer sérieusement au sujet.
Merci beaucoup Géraldine Vosner pour votre regard. 8h40, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors votre voyage en absurdie ce matin, un peu plus léger, quoique, on va prendre un tracteur, on va prendre le tracteur aujourd'hui. Vous nous parlez d'un débat qui agite le monde du matériel agricole et qui cible aux États-Unis le plus gros constructeur du monde, c'est l'américain John Deere. Je crois que c'est 20% de part de marché mondial. Ça a l'air d'être un sujet de niche, cette histoire de tracteur, mais vous nous dites que c'est une question de sécurité nationale.
Oui, John Deere vend la moitié des tracteurs aux États-Unis, 1 sur 5 en France, c'est sa part de marché mondial, vous venez de le dire. C'est un géant John Deere, 27 millions de dollars de chiffre d'affaires, et c'est aussi un géant de l'innovation. Un tracteur aujourd'hui, c'est un monstre informatique, des capteurs dans tous les sens, un ordinateur de bord super sophistiqué, des guidages par satellite. L'agriculture connectée, c'est un des moyens de la transition environnementale. La précision, c'est des économies d'engrais, de traitement, d'eau. Jusqu'ici, tout va bien.
Le problème, c'est que ces machines high-tech ont peut-être trouvé leurs limites.
Et oui, parce que le tracteur John Deere est devenu un symbole pour les fermiers américains. Celui de la machine qu'il est impossible de réparer soi-même, ce que les agriculteurs font traditionnellement pour toutes les petites pannes. Un démarreur qui claque, un carbu de travers, le tracteur est bon pour le retour chez le concessionnaire. Ça coûte un pognon de dingue, c'est du temps perdu et si ça arrive en pleine moisson, c'est carrément la perte sèche. Situation folle. Les fermiers sont devenus prisonniers du système qui est supposé leur faciliter la vie.
Ah, quelle ironie. Le ras-le-bol des fermiers a d'ailleurs créé un mouvement protestataire.
Ça s'appelle Right to Repair, le droit de réparer. Une guérilla sur plusieurs fronts. Judiciaire d'abord, avec des actions collectives pour forcer John Deere à ouvrir son système aux propriétaires de tracteurs qui les ont achetés mais qui ne peuvent pas les programmer ou les réparer. Réglementaire ensuite, l'administration Biden veut obliger John Deere et ses homologues à permettre les réparations maison ou par des garages indépendants. Parce qu'il y a aussi la question du réseau. Pour le monopole de la réparation, pour l'administration Biden, ça pénalise économiquement l'agriculture. Et puis, il y a des risques infiniment plus importants qui se dessinent.
Ah oui, parce que si on dit ordinateur de bord, on dit aussi piratage informatique. Hein.
Choc des mondes. Des hackers militants sont venus à la rescousse du mouvement Right to Repair il y a quelques semaines. Lors d'une convention à Las Vegas, l'un d'eux a réussi à prendre la main sur un ordinateur de bord de tracteur, un des plus vendus de John Deere. Il a réussi à jouer à un jeu vidéo sur la console de bord. Anecdotique, pas du tout. Ça a mis John Deere très en colère parce que le hacker a hissé le débat du droit à réparer à un autre niveau, celui de l'insécurité numérique de la chaîne alimentaire.
L'insécurité numérique de la chaîne alimentaire, j'y avais jamais pensé. Alors, pourtant, c'est pas très méchant de jouer à un jeu vidéo comme ça dans son tracteur.
Et si le hacker a réussi à prendre possession du système du tracteur connecté, d'autres pourraient pirater toute la flotte John Deere et la paralyser en pleine moisson,
ouais,
par exemple.
C'est vrai.
Attaquer la chaîne alimentaire d'un pays, c'est le mettre à genoux en quelques jours. Et l'année dernière, il y a eu une attaque sur une chaîne d'abattoirs aux États-Unis. Ça a duré plusieurs jours et ça a créé une pagaille monstre dans la distribution.
Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire, Emmanuel ?
Pas de morale, non. Vous ne m'entendrez jamais dénigrer le progrès, l'innovation et dire qu'on était quand même mieux avec des bonnes vieilles charrues. Mais se rendre esclave d'une machine qui est supposée vous libérer du labeur physique, c'est un sacré paradoxe. Et avoir autant travaillé à rendre la production de nourriture fiable, stable, pour se mettre à la merci de tels aléas, c'en est un autre. Et il n'est pas anodin que les autorités américaines considèrent l'affaire non comme un litige commercial entre un fabricant de tracteurs et ses clients, mais comme un sujet de sécurité nationale.
L'insécurité numérique de la chaîne alimentaire. Il n'y a que sur Europe qu'on entend des histoires comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Je ne sais pas où vous êtes allé la chercher celle-là, mais alors c'était assez incroyable. Merci aussi beaucoup Géraldine Vosner. À la semaine prochaine. À suivre, le club de la presse Europe 1, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, David Revaud-Dallone, le journal du dimanche. On va revenir sur cet arrêt de la CEDH dans l'affaire des djihadistes. A tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
La France va-t-elle devoir faire revenir et protéger tous ses ressortissants et leurs familles partis faire le djihad en Syrie ? La question se pose après l'arrêt rendu hier par la Cour européenne des droits de l'homme condamnant Paris. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier-là où s'entrechoquent le droit, la morale, la perception de l'homme de la rue qui se dit mais comment c'est possible ? Comment on peut défendre plus des djihadistes que la France. Mais il y a des raisons fondamentales, il y a des enjeux policiers, des enjeux sécuritaires aussi, parce que ce que l'on dit moins, c'est que les services de renseignement, l'air de rien, préfèrent avoir ces gens à portée de main qu'à des milliers de kilomètres, à la merci peut-être, d'une évasion, ce genre de choses. Sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe, que l'on va continuer de creuser avec nos deux éditorialistes européens du jour. Bonjour David Revaud-Dallone.
Bonjour Dimitri.
Chef du service politique au Journal du Dimanche et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Bon, on a ouvert le bal avec David la semaine dernière, Charlotte, à vous l'honneur. Je rappelle que dans cette histoire, la CEDH était saisie par deux familles françaises qui demandaient depuis des mois et en vain aux autorités françaises de rapatrier leurs filles qui sont parties il y a quelques années de ça suivre leur mari qui était djihadiste, sachant qu'elle-même était djihadiste. On va regarder un petit peu qui sont ces femmes que l'on voit là-bas. Et elles ont eu des enfants sur place. Ces familles demandaient à la France de les faire revenir. La réponse des autorités, c'était très ferme. Non, 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 on n'en veut plus. Ces gens-là ne doivent pas rentrer en France. C'est ça que condamne la CEDH.
Alors, la CEDH, elle condamne très exactement l'opacité, on va dire, de la réponse de la France, c'est-à-dire la non-réponse individuelle, en l'occurrence à ses parents, qui disent avoir écrit et ne pas avoir obtenu de réponse. En revanche, et on a beaucoup entendu hier, la CEDH condamne la France qui va devoir rapatrier. Non, la CEDH précise que la France n'est pas du tout obligée de rapatrier ces personnes. Elle dit même que les ressortissantes, je cite, j'ai le document sous les yeux, ne bénéficient pas d'un droit général au rapatriement au titre du droit d'entrée sur le territoire. Parce que les parents plaidaient le droit d'entrée sur le territoire pour tout ressortissant français. On ne peut pas vous empêcher l'accès.
Oui. Là, la Cour précise, mais les circonstances de leur emprisonnement en Syrie forcent la France quand même à examiner la demande des familles.
Voilà, donc comme il y a en gros un risque qui pèse sur l'intégrité physique des femmes et en plus pour les enfants, la France doit examiner l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces dossiers-là précisément. La CEDH dit, comme la situation est très particulière, zone de guerre, des camps de rétention où l'intégrité physique est en danger de ces personnes, alors il y a une obligation positive, dit-elle, pour les États de se pencher dessus et donc de motiver la décision du refus.
Oui.
Mais dans la motivation des décisions du refus, elle évoque les considérations impérieuses d'intérêt public. Je pense que sur ce terrain, c'est quand même possible de la motiver. La question des difficultés d'ordre juridique, diplomatique et matériel. Donc il y a quand même un champ possible pour la France de se justifier. Maintenant, on peut tous être choqués parce que quand même dans ce dossier-là, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que le tribunal administratif, parce que les parents, évidemment, ont été dans l'ordre, on va dire, dans les ordres de juridiction, le tribunal administratif et le Conseil d'État ont refusé de traiter le dossier, disant que ça relevait exclusivement de l'exécutif parce qu'ils n'avaient pas les données à la fois diplomatiques, sur le terrain de guerre, etc.
Les gens ne sont pas sur le sol français. C'est, voilà.
Voilà. Ouais. Donc, vous avez des juridictions nationales qui disent que c'est entre les mains de l'exécutif et c'est finalement une juridiction supranationale qui contraint le gouvernement français. C'est la seule chose qui peut nous agacer.
David Ravaud-Dallone, c'est une bombe politique cette histoire?
Très clairement, c'est une bombe politique. Alors là, Charlotte Danas vient nous expliquer un peu les fondements juridiques de cette décision. Mais ça pointe finalement ce qu'avait été la politique ou la non-politique du gouvernement jusqu'ici en la matière. Oui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous détailliez l'ensemble de paramètres moraux, juridiques, policiers, mais aussi un paramètre politique. Et le premier, c'est que du point de vue de l'opinion, c'est quand même extrêmement compliqué à justifier de faire revenir des gens, enfin en l'occurrence des femmes, qui sont parties de leur plein gré, à minima...
Qui ont brûlé leur passeport et l'ont montré sur Internet aussi pour certains.
À minima pour rejoindre l'État islamique et se marier là-bas. Et dans des cas plus graves, ça existe, puisque hier on a appris qu'opportunément, une partie de la quinzaine de femmes qui avaient été rapatriées en juillet lors du dernier volet, je dirais, ont été... mise en examen et incarcérée, dont l'épouse de Sami Amy Moore, qui était un des djihadistes du Bataclan.
Alors j'ajoute que dans ce retour de début juillet, effectivement vous avez raison, la veuve de Sami Amy Moore, qui n'était pas que Madame Amy Moore, elle faisait aussi la police dans les camps pour l'État islamique. Vous avez aussi dans le lot Emily Koenig,
absolument,
recruteuse très active de l'État islamique, et puis la veuve d'Adrien Guial, alors lui n'est pas très connu, c'était quand même le propagandiste en chef pour la sphère francophone de l'État islamique en Syrie, et son nom est au procès de Nice à cet homme-là. Hein.
Donc d'ailleurs, on s'est demandé pourquoi dans le procès du 13 novembre, on n'avait pas aussi posé la question des épouses de djihadistes. Ça, c'est un point de détail. Donc effectivement, que faisait le gouvernement français? Jusqu'ici, la Cour européenne des droits de l'homme, je crois, le dit joliment, il traitait les dossiers au cas par cas. En réalité, il bricolait un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone de non-droit absolu, non-droit juridique, non-droit territorial et politique, puisque ces femmes et ces enfants sont détenus par une entité politique, le Kurdistan autonome syrien, qui n'est pas reconnu sur le plan international.
Mais sur le plan politique, David, il y a 3 ans de ça, en 2019, quand on soi-disant traitait au cas par cas, que la France ne voulait pas que ces gens rentrent. Ça posait aucun problème à personne. Tout le monde faisait ça en Europe. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Pourquoi aujourd'hui il faut faire ça?
Ce qui a changé, c'est d'abord que sur le terrain, ces prisons sont situées sur le territoire syrien, donc en but à des attaques de ce qui reste de l'État islamique, qui veut libérer des prisonniers. Et on a vu que dans le passé, dans les derniers mois, ça s'était déjà produit. Des prisonniers se sont échappés. Deux, il y a effectivement un risque policier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, ces personnes sous contrôle, incarcérées ou sous contrôle judiciaire, sous contrôle des services de renseignement, dans le cas de celles qu'ils nécessitent, plutôt que dans la nature, dans un état non reconnu ou je ne sais où sur la planète. Ça semble être un bon sens policier. En revanche, évidemment, c'est quand même extrêmement compliqué d'expliquer à l'opinion qu'on fait revenir... on a parlé du cas des femmes, mais le cas des enfants est aussi extrêmement problématique, parce que pour la plupart, ce sont des enfants qui n'ont connu que la guerre, que le terrorisme, et qui sont quand même massacrés sur le plan psychologique.
Mais soyons précis, Charlotte Dornelas, la décision de la CEDH, est-ce qu'elle suppose des retours systématiques de djihadistes dès lors que les familles le demanderaient?
Non, elle demande à la France simplement de motiver pour que... Alors évidemment, on est sur un terrain absolument d'argutie judiciaire, c'est-à-dire il faut donner des motifs aux familles pour qu'elles puissent éventuellement les contester devant la justice, mais que ce soit extrêmement précis. Là, on ne sait pas ce qu'on appelle le cas par cas, et d'ailleurs on le comprend en découvrant les profils de celles qui sont rapatriées. On ne rapatrie pas parce que les personnes nous ont touchés, on rapatrie les plus dangereux parce que précisément on préfère les avoir en prison ici que potentiellement évader là-bas. Il y a quand même deux choses pour répondre à votre question. Il y a deux choses qui ont changé. Un, les Kurdes et l'Irak refusent de juger de nouveaux ressortissants. Donc, ils sont administrativement français, ces personnes-là. Si les pays dans lesquels ils sont exigent que nous les récupérions, c'est un peu notre histoire des laissez-passer consulaires. C'est-à-dire que c'est notre devoir vis-à-vis des pays et non pas vis-à-vis de ces personnes, déjà pour commencer. Et la deuxième chose, moi, ce qui me fascine quand même dans cette histoire, c'est que la différence entre l'opinion publique et les autorités, qu'elles soient politiques ou judiciaires, c'est que l'opinion publique ne reconnaît pas ces personnes comme françaises. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut... En effet, elles ont brûlé leur passeport. En effet, elles ont pris les armes pour les retourner contre la France. Et les Français se disent, ça va en fait, les bonnes poires. Mais de l'autre côté, côté, on a des autorités politiques qui sont à la fois sur le terrain politique, puisqu'ils ont refusé la déchéance de nationalité, et sur le terrain judiciaire, puisqu'ils se sont liés les poings depuis des années, ils sont complètement bloqués.
Alors, ces revenants, qu'en faire ou les incarcérer? Je posais la question tout à l'heure à Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste. C'était tout à l'heure sur Europe 1. Écoutez.
Ce qui aurait été intéressant par rapport à cette décision, c'est d'avoir un retour sur la prise en charge qui a été déjà faite de ceux qui sont déjà rentrés. Et la deuxième question, évidemment, c'est la situation de nos prisons. Pour les majeurs qui vont être sur des procédures, ça va être compliqué aujourd'hui de les gérer dans des prisons qui sont déjà dans un état difficile et eux sont parfois extrêmement radicalisés.
La question de la prise en charge, David Revaud-Allen, ces gens-là ont-ils vocation à aller dans des prisons de droit commun compte tenu de leur passé, de leur possible radicalité, toujours, et de la dissimulation aussi. Hein.
D'autant qu'on sait que les prisons sont un des lieux de diffusion de la radicalisation islamiste et djihadiste, et que c'est un des principaux points de focalisation aujourd'hui des services, puisqu'il y a même un service de renseignement pénitentiaire qui a été créé, principalement à cette fin.
Enfin, qui avait été dissous et qu'on a recréé péniblement. Hein.
Sur le cas des mineurs, qui est quand même vraiment, sans mauvais jeu de mots, une bombe à retardement. Vous avez des enfants qui, a priori, à la différence des femmes, n'ont pas demandé à être là, n'ont pas demandé à naître sur ce terrain, dans cet environnement, mais qui n'ont connu que la guerre, qui ont été embrigadés de façon endoctrinée, de façon extrêmement radicale.
On dit que tout se joue avant 3 ans.
Voilà, tout se joue avant 3 ans. Donc vous imaginez ces gamins revenir à 6 ou 7 ans. D'abord, la politique pour l'instant qui a été menée est toujours au cas par cas, mais qui me semble pour le coup de bonne aloi, c'est de les séparer de leur mère et de les placer dans des familles d'accueil. Mais vous imaginez, le travail de reconstruction psychologique, sociale, éducative qu'il y a à faire, et deux, le risque quand même, d'explosion un peu plus tard sur le plan, pour le coup, purement policier et judiciaire. Donc c'est un casse-tête absolument irrésolu, quasiment irrésoluble.
Je vous cite Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Elle dit ce matin chez nos confrères de France Inter, ces enfants français de djihadistes sont des victimes, nous devons les accueillir au plus vite.
C'est vrai qu'ils sont victimes, mais je tiens à préciser qu'ils sont d'abord victimes de leurs parents. Pas du gouvernement français, que les choses soient claires. C'est les parents qui ont décidé de partir et d'avoir des enfants. Maintenant, il est vrai que les enfants, moi je pense dans le fond, et c'est le fameux livre de Sonia Mabrouk qui avait écrit un livre là-dessus et qui disait « La civilisation s'effondrerait si elle ne pouvait plus imaginer sauver un enfant ». Je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, la question en effet, à la fois de ce qu'ils ont déjà dans la tête et de ce qui peut évoluer dans leur tête, et deuxièmement, puisqu'on les sépare de leurs parents et que c'est en France, dans une famille d'accueil, naîtra aussi dans leur tête que la France est en plus de tout ça, le pays qui les a séparés de leurs parents. Donc moi je veux bien qu'on les accueille, mais on peut pas faire ça en disant ils sont victimes, c'est gentil, c'est des enfants. On a un peu ce raisonnement déjà avec les femmes. Il faut voir les témoignages dans l'État islamique. Les femmes n'ont pas démérité dans l'horreur par rapport aux hommes.
Dans son cœur sommeille la vengeance, c'est le titre du livre de Sonia Mabrouk sur les lionceaux du califat. Merci pour elle de l'avoir cité. Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Merci David Revaud-Allen du journal du dimanche. 8h57 sur Europe 1. Tiens, l'interview de Béatrice Brugère dont je vous parlais tout à l'heure, elle est à réécouter évidemment sur europe1.fr ou votre application Europe 1. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Culture Média sur Europe 1 dans un instant au programme.
Gros programme comme d'hab. Habitude. D'abord, le festival. Oui, il ne faut pas dire comme d'hab à la radio, il faut dire comme d'habitude.
Toute la journée.
C'était trop mignon.
C'est pas le café du commerce, c'est la radio. Le festival Paris Paradis, c'est le festival organisé par le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Que vient faire la musique dans un quotidien? On est une émission média, c'est évidemment la question qu'on va poser à Emmanuel Marolle et à Sophie Gourmelin, qui est la directrice générale du Parisien. Ouais. Exactement, c'est la nouvelle patronne. Au sommaire également, Isabelle Iturburu, depuis 12 ans, c'est elle qui incarne le rugby sur Canal+, avec notamment à ses côtés Chabal. Le Canal Football Club a disparu, c'est maintenant le Canal Rugby Club, et vous savez quoi? Ça marche. Elle sera là, elle nous expliquera pourquoi et comment. Et puis l'écrivain et journaliste Christophe Onodibio pour son nouveau roman « Trouver refuge », c'est une dystopie. Ça se passe en 2027. Donc c'est ni Macron, ni Le Pen, ni personne d'autre qui a gagné les élections. Mais qui? Pourquoi? Comment?
Non.
Vous verrez. Et il fuit en Grèce jusqu'au mont Athos pour se cacher avec une clé USB. J'en dis pas plus,
Déjà trop dit. Et il y a une intelligence artificielle vient d'être nommée présidente d'une entreprise en Chine. Donc vous voyez, avec mon robot, je ne suis pas complètement à côté de la plaque.
Il y a des drones, vous n'avez pas tort. Il y a des drones.
Merci beaucoup, mon cher Philippe Vandel. Bonne émission, excellente journée sur Europe 1. On se retrouve demain matin, 7h. Bye bye.